Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 617 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation, comme d'habitude, modérée et responsable. Le champagne Biberotzik, avec notamment le rosé rare 2007, l'appellation Coteau du Lyonnais, le meilleur des vins des années 80. Et il n'y a pas que la musique, Philippe Olympique, le concept Vinotim. Les vendanges tardives vont enfin comprendre comment ça marche. Et comme chaque week-end, toute actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie donc de Philippe Olympique, Philippe Forbach et Philippe Cobold, David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bon allez, le Philippe Olympique au hasard dans l'agenda du vin, direction Gigondas.
Et oui, direction Gigondas. Pour la cinquième année consécutive, se tiendra un salon dédié aux gourmands. Du 11 au 13 novembre, sur le thème des accords vin et chocolat. Caroline, artisane chocolatière, sera accompagnée de sommelières pour vous conseiller sur ces différents accords qui sauront vous ravir le palais. Ce sera donc l'occasion d'une expérience
juste
sensorielle.
Juste le palais, pas le cerveau, non ?
Pardon ?
Juste le palais ou pas le reste ?
Je vais vous demander à Caroline.
Hein. On va appeler Caroline. Son numéro, c'est 06. Ensuite, ne joue pas au gros macho tous les deux. Alors, allons-y, là, qu'est-ce qui se passe ?
Donc, ce sera une expérience sensorielle gustative, olfactive, toujours avec Caroline, que vous pouvez partager en famille.
Ouf, ou en famille.
Oui. Ou entre amis. Entrée libre et plus d'informations sur cave-gigondas.fr.
Allez, on part, c'est pas très loin, on va à Nîmes,
c'est pas très loin, pour un festival épicurien haut en couleur pendant 3 jours du 11 au 13 novembre, toujours un peu les mêmes dates. Là où ces côtières de Nîmes proposent des expériences inédites dans cette nouvelle édition de Nîmes Toqué. Le vendredi, expérience insolite, dégustation et accord mets et vins. Le samedi sera l'occasion de rencontrer les vignerons.
Notamment
et
Caroline.
Pour terminer,
avec Caroline.
Il sera là.
Toujours Caroline. Et pour terminer le week-end, en beauté, le dimanche.
Avec Caroline,
vous pourrez participer à un brunch.
Et combien coûte Caroline le tarif alors?
Il faut se renseigner sur les renseignements costières-nîmes.org.
Et enfin Bordeaux, très belle ville.
Ensuite, le prochain dîner du Wine and Business Club de Bordeaux, qui aura lieu le 15 novembre au restaurant Le Chapon Fin. Au menu économie, gastronomie et grand cru, plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Merci Philippe Rosampic. Philippe Forbach, un commentaire sur le millésime 1964.
Qualité et quantité, finalement. C'est un peu ce qui résume ce millésime qui est plutôt bien né, quelle que soit la région. Une grande bouteille de Bordeaux dont il a fallu quand même choisir ceux qui ont vendangé après ou avant les pluies, parce que ceux qui ont attendu cette année-là, des fois on dit que mieux tard que jamais, mais de temps en temps c'était trop tard. Et là, quelque part, ceux qui ont vendangé avant la pluie ont bien réussi. La référence, c'est la Tour 64, par exemple, qui a tiré
juste. Lascaz est pas mal.
Lascaz est très bon. Vallée Saint-Julien, de façon générale. Sauternes, vous avez compris qu'il y avait des pluies qui s'étaient abattues à un moment donné. Mm-hmm. Sauternes n'a pas été gâtée, donc c'est vraiment pas un bon millésime.
On oublie, quoi.
En liquoreux, mais par contre pour les blancs ou les rouges de Bordeaux, comme de Bourgogne d'ailleurs, il a plu un peu, mais à partir du 26 septembre les vendanges ont commencé en Bourgogne par exemple, surtout en Côte de Nuit, et il a fait beau jusqu'à la fin des vendanges, ce qui a permis d'avoir une très jolie concentration. Et c'était très beau en Champagne aussi, juste pour terminer, et que l'on peut célébrer encore avec des gens qui sont nés effectivement cette année-là.
Alors, qui par exemple ?
Du côté dames, Juliette Binoche, Zazie, Agnès Jaoui ou encore Béatrice Dalle.
Et chez les garçons ?
Du côté garçons, Nicolas Cage, Albert Dupontel par exemple, sont de ce millésime.
Vous avez Laurent Dulot ou pas en 64 quoi ?
Non seulement on l'a, mais en plus on le garde.
Il est là en vrai, Laurent Dulot, le premier invité, le directeur général du Caviar Sturia. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en biologie moléculaire, doublé de l'INSEAD. Et votre premier job c'était dans les levures, racontez-nous.
C'est ça, dans les levures et dans le vin. J'ai fait une vingtaine d'années dans le vin. J'ai eu la chance de vinifier tout autour de la planète.
Mais les levures, c'était quoi dans les levures au tout début?
Alors, c'était sélectionner des levures pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle les levures sèches actives, qui sont des levures sélectionnées. Il y a eu un gros débat aujourd'hui sur l'utilisation ou non de ce type d'additif, mais qui permet en fait de contrôler la fermentation. Et je travaillais pour des gens qui étaient spécialisés dans le domaine des Québécois.
Les Québécois. Et en 2002, vous allez créer votre première entreprise dans la formation via Internet, on va dire, et également un journal aussi.
C'est ça, un journal qui s'appelle toujours Vinidea.net, qui avait la particularité d'être en cinq langues et de faire de la formation pour les professionnels et techniciens, donc autour de la planète, On avait un petit peu d'avance à l'époque parce que c'était déjà de l'information par internet. On en faisait aussi en face-to-face, mais on faisait aussi de l'information par internet.
Et en 2007, vous êtes parti vivre en Espagne, à Saint-Sébastien.
C'est ça.
Votre temps allé, c'est sympa.
C'est ça. L'Espagne, à ce niveau-là, c'est beaucoup de pluie. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Hein.
C'est pas le bon côté. C'est joli, mais c'est plus vieux.
Lui va mucho, comme on s'est dit ça. Hein.
Vous parliez espagnol à l'époque?
Non, pas du tout. J'aime bien les challenges.
Ouais. Et alors, dites-vous, vous avez beaucoup voyagé à cette époque. Hein. Vous étiez à l'international avec notamment comme zone, une grande zone Amérique du Sud, quoi.
C'est ça, exactement, avec la chance d'avoir vinifié en Argentine, d'avoir vinifié un peu au Brésil et puis pas mal au Chili.
Le Chili, un petit mot sur ces vins qu'on trouve là-bas, ils sont comment ?
Il y a de tout.
Oui, c'est
variable. C'est, allez, maintenant que je cherche son nom, c'est un grand professeur de viticulture, Montpellier-Reigne.
Montbal. C'était celui qui avait dit que c'est pas du Merlot, mais du Carménère.
Voilà, c'est ça. Et puis qui disait aussi qu'en fait.
Borsico, Jean-Michel.
Borsico. Qui disait que la logique au Chili est absolument incroyable parce que ça peut faire 150 hecto-hectares, mais il y a tellement, enfin, il n'y a pas de pluie, il y a énormément d'eau. Et les 150 hecto-hectares que pisse la vigne là-bas sont équivalents aux 70 hecto-hectares chez nous. Tous les référentiels sont chamboulés. Ceci dit, il y a certaines parties aujourd'hui, notamment sur des moraines glaciaires ou au nord, qui sont très, très, très intéressantes.
Ouais,
Leïda, par exemple, il y a des choses assez intéressantes là-bas.
En se rapprochant notamment de l'océan.
Absolument.
Et c'est surprenant, parce qu'à la partie nord, on n'est pas très loin de l'Atacama, qui est l'endroit le plus sèche du monde. Et là, il y a des vins formidables. Il y a
notamment des pinots, ce qui est assez surprenant, mais vous avez raison, comme on est près de l'influence du passé. Où il y a là un courant qui est très froid, hein. L'océan il est très froid à ce niveau-là. Absolument, absolument.
Il y a des fruits de baie aussi.
Voilà.
Alors en 2012, vous avez rejoint Asturia. Asturia, un petit mot, c'était créé en 90 avec la première production de caviar, hein. C'était en 95.
C'est ça, exactement. Première production de caviar d'aquaculture d'Aquitaine en 95.
Et qui sont les heureux actionnaires?
Les heureux actionnaires, c'est une famille du nord de la France. Un family office, comme on dit, du nord de la France.
Très bien. Et ils sont heureux, ces actionnaires? Ça gagne de l'argent ou pas?
Un petit peu, on essaye de les rendre heureux quand même. Ouais. Bon, alors, vous savez, les actionnaires, c'est toujours Paris, ils en veulent toujours un peu plus.
Racontez-nous, donc vous êtes en Gironde, on l'a bien compris. Vous avez combien de fermes au total?
On a 7 fermes, plus, dont une écloserie, puisqu'en fait, on gère de l'œuf à l'œuf. On va faire quelques parallèles, j'imagine, avec le secteur
de l'œuf à l'œuf.
Oui, c'est comme si on avait notre propre pépinière, en fait.
D'accord. Voilà,
il y a encore quelques vignobles qui le font. Moi-même, d'ailleurs, j'ambitionne d'en faire un petit peu,
de l'œuf ou des pépinières?
De la pépinière. De l'œuf à l'œuf, c'est très important de maîtriser la génétique, que ce soit sur du végétal ou de l'animal.
Alors, vous êtes également présent en Chine?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Quand les actionnaires actuels ont acheté aux fondateurs passés, c'était dans la corbeille de mariée. On y est.
Est comment le caviar chinois?
On est arrivé, c'est la troisième production, on est arrivé à faire le meilleur sibérien, ce qui est quand même un petit peu bizarre pour un chinois, le meilleur sibérien chinois. On est comme ça chez Sturia, on aime bien les trucs un peu bizarres.
Pour comprendre, comment est organisée la production de caviar en Europe? On en produit beaucoup, Laurent?
Alors l'Europe fait aujourd'hui... détient 70% de la production mondiale de caviar. La production mondiale de caviar l'année dernière, c'était 300 tonnes. Donc vous voulez faire le calcul, 3 x 7, 21. La France produit une trentaine de tonnes, a produit officiellement, enfin les chiffres sont pas encore tombés, mais une trentaine de tonnes l'année dernière. C'est un secteur en plein boom. Alors c'est un secteur de niche, évidemment, mais il y a tellement peu de secteurs, ça serait du compo de chagrin.
Bien sûr.
Dans notre pays, dans notre hexagone, où on a un vrai leadership et où on progresse de plus de 10% par an, c'est qu'il faut le signaler. Donc, et nous, on produit la moitié de ça.
Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles marques qui fleurissent, hein. C'est la mode le caviar, quoi. Il n'y a pas trop de marques, on s'y perd un peu, non?
Alors il y a effectivement, vous êtes très observateur mon cher, beaucoup de marques qui arrivent, ou des marques donc de négociants, on est place de la Madène, donc les négociants ici, il y en a quelques-uns, ou des marques de producteurs. Donc c'est un petit peu aujourd'hui la course à la poule aux œufs d'or. Donc les gens se précipitent dans ce secteur d'activité. C'est un peu comme dans le vin dans les années 80, quoi. Sans trop savoir, et encore une fois, quand tu parles de comment est organisé un bilan ou un compte de résultat, la gestion des stocks, etc., je vais pas rentrer dans les détails, ça va ennuyer tout le monde, mais les deux métiers, là encore, sont très, 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 très similaires, les cycles sont longs, etc. Donc, bref, il faut beaucoup, comme disait Buchenstein une fois, qui était à l'époque, quand il m'a rencontré dans les années 80, le patron de l'American Society of Enology, il m'a dit, vous savez, Laurent, pour faire petite fortune dans le vin, il faut commencer avec une grosse. Voilà. Et bien dans le caviar, c'est pareil.
Donc vous avez aujourd'hui 52 salariés, un chiffre d'affaires qui va tutoyer les 9 millions d'euros. La distribution pour la partie française, en tout cas, vous êtes organisé comment? On fait de la vente directe, Laurent? On vous revendez?
Alors on est très fort, nous, notre première, notre première voie commerciale, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la RHF. On y est ici, restauration hors foyer. Donc beaucoup les restaurants étoilés, beaucoup les hôtels et les palaces. 45% à l'export, 55% en France. Et on a une petite particularité, là encore une fois, c'est quelque chose qu'on a amené du vin. On fait, alors ça c'est un terme qui va vous paraître un peu barbare, de l'analyse sensorielle descriptive quantitative.
Wow, ça a l'air savant. On dirait un sommelier qui parle au restaurant.
Ben, j'en faisais en fait quand j'étais dans Vinidea.
C'est pas tous comme ça.
Hein. J'en faisais quand j'étais chez Vinidea et on a affiné la technique qui existait déjà chez Sturia, qui nous permet en fait de séparer les premiers crus des seconds crus. Et les seconds crus vont, un peu comme les seconds crus de vin, beaucoup en GMS, et les premiers crus vont en réseau de distribution dit spécialisé.
Alors tous ces parallèles, c'est vrai qu'il y en a beaucoup entre le vin et le vin. On va les brosser quelques-uns en tout cas.
Énorme. En fait, ça c'est comme quand je suis allé en Espagne, je parlais pas espagnol. Quand je suis rentré dans le caverne, j'y connaissais rien. Mais les parallèles sont complètement fous. Déjà le cycle. Voilà, le cycle du poisson, c'est 7 ans. À part que quand vous faites votre vendange, vous arrachez la vigne, parce que pour l'instant il y a des techniques qui permettraient de collecter les œufs en gardant le poisson vivant, mais qui affectent la qualité du caviar. Donc pour l'instant c'est pas au point. Donc ça c'est le premier cycle. Ensuite on a nous aussi une maturation, comme on a la maturation pour certains vins en barrique. On a notre propre barrique, les boîtes d'origine d'un kilo sont des boîtes dans lesquelles on fait maturer le caviar avec un système de micro-aération, au même titre que la permation des pores de la barrique.
Combien de temps ça dure, cette phase?
Cette phase, ça va durer, en fait, vous allez le faire entre 3 et 8 mois, en fonction de ce que l'on cherche comme puissance dans le caviar. Plus le caviar est affiné, plus il est puissant. Voilà.
Et au niveau association entre un caviar ou différents types de caviar et le vin, ou en tout cas le breuvage alcoolisé, c'est pas facile de rendre l'eau.
C'est assez facile, en fait, sans vouloir vous contredire, mon cher, mais... il faut éviter, il y a une association qu'il faut éviter. Alors, c'est le bois, notamment les élagitanins, le tanin du bois, pardon, les élagitanins qui peuvent révéler le sucre, le sel du caviar, et le sel lui-même va révéler l'amertume des élagitanins. Donc ça, c'est un mariage qui marche pas très 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 bien. Mais après, on peut faire pas mal de choses, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a fait un petit bouquin que je me permettrai de vous donner.
Deux, trois conseils peut-être avant de passer la parole à Philippe, vous en plus.
Alors, ce qui marche le mieux, c'est champagne. Sans aucun doute.
Vodka quand même, non?
Alors, la vodka, c'est parce que quand les Russes avaient l'habitude d'avoir des caviars très 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 affinés, puissants. Donc, la vodka jouait le rôle de nettoyer, enfin, c'était pour nettoyer la bouche. Après, donc, évidemment, ou les grands blancs. Moi, j'adore les Chablis. Ça marche très bien,
Il y a un peu d'acidité quand même, non?
Oui.
Un peu de puissance.
Condrieux, ça marche très très bien avec les condrieux.
Les graves.
Alors là aussi, mais en évitant le piège du bois, parce que parfois, on peut avoir.
Quand on les prend avec un peu d'âge, effectivement, le bois s'est fondu.
Effectivement.
Et le côté noiseté va
partir. Philippe Bozampique,
tout à fait.
Moi, je suis assez d'accord avec les champagnes, j'aime bien.
Est-ce que vous aimez le caviar déjà, Philippe?
J'aime bien, j'en mange pas tous les jours, mais j'aime bien.
Bien sûr, ça se consomme.
Surtout, ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette alliance entre le caviar et le vin. Et je trouve que le champagne, qui est assez vineux, comme un Bollinger, comme un Célos, ou des choses comme ça, se marie assez bien.
Vous n'avez pas cité la bonne marque, mais on va parler tout à l'heure.
RD92 avec un caviar relativement.
Voilà, RD96.
On va mettre des champagnes, quels qu'ils soient, plutôt vineux avec des caviars jeunes. Parce que le caviar a besoin d'être protégé. Alors qu'on va mettre des champagnes très, très, très tendues avec une bonne acidité et une bonne matrice, plutôt avec des caviars âgés.
Le rang du lot, alors pour terminer, côté personnel, votre famille, vous avez The Grand Cru du Béarn.
The One.
Ouais, c'est la Romanée Conti, vous produisez quand même 1000 bouteilles, quoi.
Voilà.
Combien de bouteilles la Romanée Conti, Philippe? Moins de 2000?
Non,
6000, entre
5
et 7000.
Ouais. L'objectif, c'est 6000, effectivement, c'est un vin de garage. Et par contre, c'est pas un vin du Béarn, parce que comme vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime pas trop faire les choses qui sont dans les règles, donc c'est un vin de France, parce que c'est un 100% Cabernet Sauvignon.
Mais il est produit où?
Dans le Béarn.
Ah, dans le Béarn, quand même. Alors ça, c'est quoi? C'est votre coquetterie? C'est le clin d'œil familial? C'est papa, c'est maman, c'est tout
ça,
le monde?
C'est papa, d'ailleurs, ça s'appelle le vin de mon père. C'est papa, mon père et moi, c'est notre projet commun, avec tout ce que ça peut avoir d'importance, puisqu'on a fait là aussi tout, hein, on a fait tous les trous, on a planté tous les cèpes, enfin on a tout fait nous-mêmes.
Et le vin est très très mauvais ou très très bon?
Bah, moi je suis surpris, vous allez bientôt aller le Wine Business Club là, dans un bon restaurant de Bordeaux où il est servi. C'est plutôt un vin de France, plutôt qu'on retrouve dans les restaurants étoilés. Cabernet Sauvignon 100%.
Et vous livrez plusieurs restaurants étoilés?
Que des restaurants étoilés.
Sur 1000 bouteilles à date?
C'est ça. Moi, je regarde un peu pour les courses.
Oh, c'est génial d'être cobold, non?
Oui, moi, j'ai hâte de le goûter. Hein,
Laurent. Oui, avec plaisir.
Ouais. Et avec modération. Laurent Dulot, toujours. Vous connaissez le champagne pipératique ou pas?
Oui, bon, j'aime beaucoup.
Très bien. Et bien, justement, on en parle avec son directeur exécutif, Benoît Collard. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Alors, un mot sur votre parcours avant d'arriver chez Etsy. Vous avez fait plein de choses, hein?
Oui, j'ai commencé dans l'eau minérale.
Ça, ça a commencé difficilement, quand même. Hein.
Un an avant de me rendre compte que lorsqu'il y a un peu d'alcool, toujours consommé avec modération, avec les bulles, c'était beaucoup plus intéressant. Donc, 20 ans dans le secteur à la fois du champagne, des vins et des spiritueux, en France et à l'étranger, sur des domaines et des régions diverses et variées, allant de la Champagne jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Argentine ou la Californie.
Et vous avez rejoint donc cette belle maison pipératique il y a quasiment un an.
Il y a un an.
Un an, joyeux anniversaire en tout cas. Oui. Alors un petit mot sur l'historique de Piper.
L'histoire de Piper, c'est une des plus anciennes de Champagne, maison encore familiale, une des rares maisons familiales fondées au XVIIIe siècle, fondée en 1785, qui a été acquise par Christopher Descours en 2011. Une des maisons les plus emblématiques du Champagne à travers le monde, puisque un des leaders du champagne en dehors de France. Donc, on le retrouve avec plus de 80% de nos ventes en dehors du marché français. Et une maison qui est la maison de champagne la plus récompensée du siècle. Depuis le début des années 2000, Régis Camus, qui est notre chef de cave depuis 22 ans.
Qu'on salue.
Et qu'on honore. Est particulièrement reconnu pour la qualité de ses vins et son génie.
Particulièrement récompensé par les Anglais, je crois.
Exactement, Benoît. Exactement. Mmh. Les Anglais, je pense, apprécient à la fois un certain parti pris, une certaine vision, et puis une authenticité et un instinct dans certains de ses choix.
Mais c'est vrai que Pipératique était un peu la belle endormie. Hein. Et là, on a l'impression que depuis 2-3 ans, c'est totalement réveillé. Les vins sont très bons, voilà. Et les journalistes se reconnaissent. Donc, on est au début de la pyramide, en haut de la pyramide. Il faut que ça redescende maintenant.
Exactement. Une belle endormie, en tout cas, qui ose probablement s'affirmer un petit peu plus et montrer une certaine fierté sur à la fois ses vins et sa personnalité. À travers le monde et dans tous les établissements, restauration,
c'est ça, cave, etc. Dans la gamme Piper, Benoît, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on a?
Alors, dans la gamme Piper, nous avons à la fois Piper Icy Brut, nous avons un rosé non millésimé qui s'appelle Rosé Sauvage, une cuvée plus dosée, la cuvée Sublime, une cuvée qui est un extra brut, qui est essentiel, qui n'est présent qu'en caviste.
Extra brut, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est un champagne qui a un dosage réduit par rapport à un champagne brut, donc il va avoir une tension, une complexité un petit peu plus importante.
C'est avec le caviar.
Exactement. On est à moins de 5 grammes.
Nous sommes à la législation est à moins de 6. 6, ouais. Et donc, souvent, effectivement, nous sommes plutôt aux alentours de 5 grammes. Ouais.
De 5. Et votre actualité, donc, c'est le rare rosé millésime 2007. Alors, les cépages, tiens, qu'est-ce qu'on a comme cépage, par exemple, pour le rare rosé 2007?
Alors, rare rosé 2007, c'est un assemblage de pinot noir et de chardonnay. Même si nous sommes sur un champagne rosé, il y a une majorité de chardonnay, 56% de chardonnay et 44% de pinot noir.
Et donc l'ambition 2007, c'est une belle année, Benoît?
Alors 2007 est ce qu'on appelle une année typiquement rare, puisque la cuvée rare est une cuvée qui, dans les cuvées de prestige, fait un petit peu exception, dans le sens où nous avons élaboré très très peu de millésimes depuis sa création. Puisque première cuvée de prestige dans la maison en 1885, et depuis 1976, où on a vu arriver la première cuvée rare millésimée, il n'y a eu que 8 millésimes. Donc c'est peu. Ce sont des vins assez s'expriment assez rares et qui se veulent être l'expression d'années extraordinaires, sortant de l'ordinaire, années atypiques, où il faut probablement chercher parmi l'ensemble des 320 crus de la Champagne ceux qui vont révéler des caractéristiques assez extraordinaires.
Cobold.
Alors j'ai une question qui n'est pas une question piège, donc ne me prenez pas, Benoît, mais qui est une question pour clarifier pour l'auditoire d'Invino. Vous avez dans votre escarcelle deux marques qui portent le nom Heidsieck,
oui.
Charles et Piper. Alors comment est-ce que vous ferez la distinguo entre les deux sur le plan des vins et sur le plan du marketing, du marché?
Alors ce sont deux maisons complètement séparées. Nous avons eu la chance d'être regroupés au sein enfin, de faire un regroupement familial finalement 200 ans plus tard de ces deux maisons, puisque la maison Charles Heidsieck a été fondée par le petit-neveu de Florent Louis Heidsieck, le fondateur de Piper Heidsieck, qui a souhaité voler de ses propres ailes. Nous avons typiquement deux styles de vin complètement différents. Charles Heidsieck qui est beaucoup plus sur un style plus vineux,
plus riche,
avec une proportion de vin de réserve qui en fait quasiment un multimillésime à vieillissement très prolongé dans la famille des grandes marques du type Krug, alors que Piper Heidsieck s'exprime beaucoup sur une certaine fraîcheur, c'est l'expression du champagne notamment par le Pinot Noir. Puisque le style de la maison est très très porté sur le Pinot Noir, et avec donc deux présences également dans le marché différentes. Charles Heidsieck est présent dans la restauration traditionnelle en cave. Piper Heidsieck est présent à la fois dans ces univers, mais également dans un univers un peu plus festif, et également en grande distribution, comme toutes les grandes marques de champagne qui font finalement que pour le consommateur, souvent le champagne est le produit de luxe présent également en grande distribution.
Benoît, pour terminer, le millésime 2016, la vendange, là, tout est terminé, ça s'annonce comment ?
Un millésime 2016 qui nous a fait avoir plusieurs sueurs froides, puisque elle a commencé par un hiver assez doux, donc on a démarré assez vite, puis ralentissement assez fort, début mai, avant les Saintes Glaces, gelées qui ont été particulièrement meurtrières dans la région de l'Aube, qui est une région qui est très importante pour nous, et d'ailleurs Rarosé 2007 n'existerait pas si Régis Camus n'était pas tombé amoureux d'une cuve de vin rouge issu d'Hérissé. Qui pour lui était exactement ce qu'il recherchait comme base.
Merci beaucoup Benoît Collard et bon vent, notamment pour ce Piper Rarosé millésime 2007. Vous connaissez Benoît les coteaux du Lyonnais ou pas ?
Un petit peu. Et oui, c'est une région.
Vous allez parfaire votre culture grâce à Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde, qui nous en parle. C'est l'appellation du jour.
C'est l'appellation du jour. Alors c'est vrai que toutes les grandes villes, les grandes métropoles et les grandes ce monde rêvent de leur vigne. Alors à Paris, on a Montmartre, Suresnes. Je sais que vous allez m'apostropher là-dessus.
Suresnes, le grand cru.
Voilà. N'oubliez pas Issy-les-Moulineaux.
Issy-les-Moulineaux. Il y a eu beaucoup.
Il y a Louveciennes aussi.
Beaucoup de vins à une époque dans la région parisienne, et Paris donc avait son vin. J'ai d'ailleurs participé il y a quelques jours au vendange de Montmartre.
Et vous allez être fier.
Et j'ai goûté le raisin. On m'a dit, surtout, n'en prenez pas beaucoup, ça va réduire considérablement la récolte, c'est vrai. Elle n'a pas beaucoup, 2000 pieds. Mais finalement, il était plutôt bon, le raisin, donc on va attendre pour juger le vin. Et j'avais eu l'occasion de goûter le 2015 de Montmartre, qui était, pour une fois, intéressant à boire.
Vous voulez qu'on vous croise, vous êtes parfait, puis de temps en temps, vous vous égarez quand on parle des vins parisiens.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas toujours évident, surtout dans ces endroits-là. Alors, il y a du vin... au-dessus de Nice, le Bélé, on pourrait appeler ça les coteaux niçois, je veux dire. Il y a des vins autour de Bordeaux, pareil.
Aubryon,
Aubryon est un vin très urbain. Et puis, donc, Lyon ne déroge pas à la règle. Et même si l'image lyonnaise est plutôt partie sur la table, mais sur la table, on y met à manger, mais on y met aussi à boire. Et le fameux pot lyonnais qu'on attribue souvent, finalement, au Beaujolais ou au Côte-du-Rhône, est sûrement né de ces coteaux du Lyonnais, qui démarrent au sud de la région beaujolaise, donc pas loin de Villefranche, par là, dans la partie nord de Lyon, et qui finit au sud, pas loin de la région des Côtes-du-Rhône, puisqu'on est presque à la limite du fameux Côte Rôti.
Donc il fait tout le tour de Lyon.
Il fait tout le tour de la ceinture lyonnaise.
Comme le TGV.
Il fait un contournement de la région lyonnaise, exactement, par sa partie ouest. Donc il y a deux terroirs, la partie nord et la partie sud, qui donnent finalement pas tout à fait le même type de vin. Alors on produit du vin dans cette région depuis longtemps. Lyon est une ville ancienne, et dès 45 avant Jésus-Christ, et pas hier, il y avait déjà des traces de vignobles organisées dans cette région, dans cette région-là. Le Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, a vu la production se développer d'une façon assez considérable, et puis patatrac, le phylloxéra qu'on évoque souvent, a remis un peu les choses à plat, et le vignoble s'est redynamisé seulement à partir des années 30, quand les appellations d'origine contrôlées ont été créées. Là, on a réorganisé un peu le vignoble qui n'avait pas complètement disparu, mais qui renaît un petit peu de ses cendres. Pendant la période de la guerre, vous savez que beaucoup ont demandé les AOC dans cette période-là, ou juste après, parce que pendant la période de l'occupation, les vins qui n'étaient pas AOC étaient réquisitionnés par l'occupant, et ceux qui étaient AOC ne l'était pas. C'est pour ça qu'on a vu apparaître un certain nombre d'appellations. L'une des plus célèbres, c'est Bandol, par exemple. Ouais. En 42, ils ont vite fait pour faire, Monsieur Perrault était à la manette. Ils ont dit, on va faire du, voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la région. Ils l'ont eu bien plus tard. Mais ils ont engagé déjà cette démarche.
Oui, c'est assez fou le nombre d'appellations créées en 42, 43.
Ouais. C'est fou. Ouais. Ouais. C'était juste pour des raisons effectivement de guerrières quasiment. Alors l'appellation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est à peu près 400 hectares de vignes répartis, je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de la partie ouest de Lyon. Il y a 59 communes qui peuvent avoir droit à cette appellation. On y produit à la fois des blancs et des rouges. Les blancs sont élaborés à partir de Chardonnay, qui est le grand cépage d'influence de cette région quand même. Mais on y trouve aussi de la Ligotée, qui est un autre cépage qui a une connotation très bordelaise, très bourguignonne, pardon, mais qui donne des bons résultats, d'autant plus que plus au sud, finalement, il est un peu plus mûr. Il a de la maturité tout en gardant de la fraîcheur.
On a moins besoin de mettre du cassis dedans pour le rendre buvable.
On est obligé de le mettre en cocktail, exactement. Son équilibre lui permet d'être dégusté en l'état. Il est quand même assez minoritaire dans l'appellation Côte de Lyon en volume, mais il est intéressant. Le principal vin produit, c'est du rouge, et il est élaboré à partir du Gamay, le fameux Gamay à jus blanc, qui donne dans le Beaujolais aussi, pas loin, de jeux de résultats, le côté fruité, le côté désaltérant, les fameux bouchons lyonnais auxquels j'ai fait référence tout à l'heure se portent bien. Toute la gastronomie de la région qui est faite de fromages, de charcuterie, mais également agrémentée de fruits, de miel, etc., permet de mettre en valeur ces vins tout à fait originaux.
Philippe, juste une question. Alors pourquoi on appelle ça bouchon? C'est parce qu'il y avait beaucoup de ça?
Oui, on est débouché pas mal de, ouais. de...
Non, mais c'est pas ça, sûrement.
Il y a des chances que ça vienne de là. Hein.
Ah oui?
Le bouchon, vous voyez. Ouais. Ou alors, on restait bloqués. Finalement, quand on arrivait là-bas, on était vraiment
ils
dans
sont
un
mignons tous les deux. Alors,
et plus s'en sortir, voilà. Et on, surtout, on y prenait beaucoup de plaisir. On y continue à le faire. Alors, quelques vignerons
bien sûr,
intéressants.
Émérites.
Exactement. La famille Rostin. Alors, ça s'écrit comme le Rostin de c'est sûrement de la famille d'ailleurs, de Cotrotti également.
L'écrivain.
Il est à Savigny.
Non, pas l'écrivain,
pas
il est à Nîmes.
Exactement. Michel, Marinette et Patrice, il faut tous les citer parce qu'ils vont m'en vouloir. Sinon, Ruiton, ils sont installés du côté de
Tartine.
On va le retrouver quelque part. Elle viendra seulement pour
elle se cache pour l'instant. Hein.
Et donc à Dardilly, donc vraiment à proximité immédiate de la ville de Lyon. Ça c'est pour la partie nord et plus au sud, en descendant vers les vallées du Rhône, on a du côté de Saint-Andéol-le-Château le domaine des Barotières, ou encore à Saint-Romain-en-Gier le domaine Pierre Charmy. Ce sont des vins qui sont accessibles
oui,
en
ça, au niveau du prix
et en prix.
Comment ça
parce
coûte,
que à moins de 10 euros, on peut s'offrir une jolie bouteille. 7-8 euros pour les premiers vins. Quelques cuvées un peu particulières, comme toujours, qui peuvent dépasser une quinzaine d'euros. Mais c'est vraiment très intéressant. Ça fait des gamets accessibles, fruités à souhait. Ça change, entre guillemets, pas trop du Beaujolais ou des autres gamets du coin, mais il y a une originalité dans l'appellation. Et je veux juste signaler, avant de terminer, que la fameuse fête du Beaujolais, qui va être dans quelques semaines, puisque ça sera le 17 novembre cette année, le fameux Beaujolais nouveau, finalement, les gens du Beaujolais, et à mon avis, ils ont raison, vont essayer de transformer cette fête du Beaujolais nouveau en fête du gamet, tout simplement. Ouais. Et profiter de mettre en valeur ce cépage.
C'est une bonne idée.
On a fait au mois de septembre le Grenache des. Et comme il y a d'autres cépages que l'on met en valeur aujourd'hui, donc de faire, et non pas simplement de faire goûter le vin de l'année, mais de dire le Gamay, c'est aussi un cépage qui donne des vins de garde.
Ouais.
Donc profitons ce jour-là pour présenter d'abord les Gamay de Touraine, de Gaillac ou d'ailleurs, mais aussi de revisiter, de donner la valeur également à des Gamay un peu âgés qui sont très intéressants à goûter.
Merci beaucoup Philippe Orbach, qui dit le BFM marque une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Pourquoi ? Pour le Ville Quiz.
Cave à vin, passion, conseil, proximité et de nombreuses découvertes en exclusivité. Goût et qualité au meilleur prix. Cave à vin, 150 cavistes passionnés, prêts à vous conseiller partout en France. Plus d'informations sur caveavin.fr. Cave à vin, c'est CAVAVIN. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce soir, à 20h50 sur RMC Découverte, la chasse est ouverte. Dans le désert gelé de l'Alaska et du Yukon, des hommes et des femmes vivent encore de la cueillette et de la chasse, dans des conditions extrêmes. Chaque jour devient une lutte pour survivre. Alaska, les derniers trappeurs, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24.
Les 25 jours au champ, c'est parti. Découvrez aujourd'hui comment avoir le sourire, même si on n'a pas toujours de la chance.
C'est très simple. Jusqu'à lundi, rendez-vous en magasin sur Auchan Drive ou sur Auchan.fr et recevez 5 euros en bon de réduction par tranche de 50 euros d'achat avec votre carte Auchan.
Ah oui, et vous pouvez avoir jusqu'à 15 euros en bon de réduction valable sur les rayons jouets et sports. Alors à vous de jouer. Décidément, on n'a pas fini de sourire aux 25 jours au champ.
Hors jeux vidéo, voir conditions magasin et sur les sites internet concernés.
Oh, mon cœur! Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Ça va, monsieur?
Non!
Quoi?
Mon cœur!
Appelez les secours!
Accident, malaise, catastrophe. Et vous, que feriez-vous? Informez-vous, formez-vous sur comportementquisauve.fr. Un message labellisé Grande Cause Nationale 2016.
Impayés, dépôt de bilan, liquidation, délai de paiement. Au lieu de vous taper les problèmes avec vos entreprises partenaires, tapez verif.com. Chiffre clé, dirigeant, bilan. Vérifiez la santé financière des entreprises sur verif.com.
Ne manquez pas la troisième édition de Marketing Day, l'événement incontournable du marketing. Plus de 600 décideurs du marketing, 200 business meetings, 30 startups au sein du Village Innovation. Rendez-vous le 15 novembre prochain au centre Eurosite, 28 avenue Georges V, Paris 8e. Plus d'informations sur marketing-day.fr.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour au bar à vin restaurant Nicolas à Paris. Nous sommes place de la Madeleine avec Philippe Faubrac et le Vino Quiz.
Oui, je vous en rappelle le principe, même si vous connaissez ça par cœur maintenant. Chaque semaine, on vous pose une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club.
C'est pas mon avis. Un joli cadeau.
La semaine dernière, rappelez-vous, la question était quand il n'est pas un fromage? Le Pecorino est, réponse A, un vin rouge espagnol. Réponse B, un vin blanc italien. Réponse C, un vin rosé grec.
Et la réponse, Philippe?
Eh bien, c'était la réponse B, un vin blanc italien.
Alors, cette semaine,
la nouvelle question est, quel cépage compose la cuvée rare rosée de Piper Hitzig? Réponse A, chardonnay et pinot noir. Faut être concentré quand même, hein. Réponse B, chardonnay et sauvignon. Réponse C, pinot noir et sauvignon.
C'est hein? Pas facile, facile, hein.
Bah, en tout cas, il n'y a pas de pinot gris là-dedans?
Il y a deux cépages, voilà. Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, hein, un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, vous pouvez dès présent nous envoyer votre réponse à l'adresse suivante, par mail, invino@vinojeux.com. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses
Merci
bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Orbach, Invino BFM accueille maintenant un nouvel invité, un de plus, hein, la personne de Vincent Chevrier, qui a fondé Vinoti. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors vous êtes tranquillement fonctionnaire, père de famille, puis un jour vous décidez de créer une boîte, vous êtes fou?
Ben écoutez, oui, il faut toujours un grain de folie d'une part pour monter des entreprises, mais est-ce que c'est si fou que ça? Mais surtout, je dirais, c'est un peu par amour que j'ai fait tout ça, puisque c'est l'amour du vin.
Ah, c'est pas votre épouse.
Et c'est également mon épouse, puisque comme elle devait partir en province pour son travail, et que ben, on ne pouvait pas mener nos deux carrières, l'un à Paris et l'autre en province, et ben, j'ai choisi effectivement de me donner cette respiration, de créer.
Oh, c'est beau. Vous êtes marié depuis combien de temps? Vous êtes marié depuis longtemps?
Eh ben, depuis le 14 juillet 2012, exactement.
Ouais, vous verrez dans 10 ans. Non, je plaisante. C'est très, très bien.
Alors, quand même.
Alors, allons-y. 2015, donc, c'est la première création. Vous nous racontez un peu les quelques-unes des forces qui ont présidé à ça. C'était quoi? C'était Ville Explore.
Exactement. Donc, l'idée, j'ai réuni quelques amis qui sont, comme moi, des amoureux du vin. Et on s'est dit, bah, tiens, montons une boîte dans le vin. Alors on a regardé évidemment ce qu'il y avait. Il y a beaucoup de choses dans le vin. L'idée d'en vendre, moi, je trouve ça, c'est un métier fabuleux, mais j'avais pas envie d'en vendre du vin. J'avais envie de répondre à des problèmes de gens comme moi, qui à la base, je ne m'y connaissais pas tellement en vin, enfin comme un homme un peu moins connaître en matière de vin. Donc créer un instrument qui permette de le découvrir facilement. Et donc, comment on fait pour découvrir le vin? Il n'y a qu'une seule solution en réalité.
On
c'est le goûter.
Invino BFM.
Exactement. Alors au-delà d'écouter
avec
Invino
modération,
BFM,
évidemment.
Exactement. La seule manière de savoir le goût d'un vin, eh bien, c'est le goûter. Et donc de là est partie l'idée de créer Vinexplore, donc un site web vinexplore.com, qui est un service d'annonce gratuit ouvert à toutes les professions du vin. Tous les professionnels du vin sont les bienvenus pour publier des annonces lorsqu'ils font goûter les vins. Donc ça a démarré, on a lancé au plan national en mars 2015, ça a pris comme une traînée de poudre. À la mi-2015, on couvrait déjà à peu près la moitié du territoire. Ensuite, à l'automne, on était partenaire d'Interbeaujolais pour les Beaujolais nouveaux, ce qui a encore accru évidemment la pénétration, aussi bien chez les cavistes indépendants en chaîne, mais chez les vignerons.
Mais alors comment ça marche? C'est-à-dire qu'on ne goûte pas sur Internet, c'est-à-dire qu'on clique, on reçoit des bouteilles, comment ça marche? On goûte comment? Chez les copains ou ça?
Eh bien, tout simplement à proximité de chez soi. Partout en France... tous les week-ends, des cavistes font des dégustations gratuites dans leur cave. Tous les week-ends, il y a des salons des vins, partout à proximité. Pendant la saison d'été, et les belles saisons en général, il y a des fêtes viticoles, partout à proximité. Eh bien, tous ces événements sont des annonces qui sont sur Vinexplore. Partout en France où vous vous trouviez, il y a une occasion de goûter des vins.
Gratuitement ou en payant, ça dépend peut-être.
Je dirais qu'il y a 95% des événements sur le site vinexplore.com qui sont totalement gratuits. Il y a également des partenaires de prestige qu'on a comme la Vigna, les Caves Le Grand et d'autres. La liste est longue, qui offrent des dégustations sublimes, naturellement, qui sont payantes. Voilà.
Et alors le business model pour vous, c'est quoi?
Le business model de Vinexplore, eh bien, c'était d'abord une monétisation grâce à la publicité.
Sur le site.
Sur le site. Et puis d'autre part, à moyen terme, surtout, pouvoir être cette porte d'entrée non seulement pour le grand public français, mais également pour le public étranger. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que Vinexplore est membre d'Atout France et promu.
Ça existe à l'étranger? Vous êtes le seul, c'est spécifique à la France?
Il y a aux États-Unis un site qui doit être à peu près sur le même registre, même si c'est plus effectivement de l'accès à des dégustations payantes, parce qu'aux États-Unis, vous savez, tout est payant. Oui. Ils n'ont pas la chance magnifique de vivre dans ce pays, la France, où il y a un vigneron tous les 10 km et un caviste tous les 300 mètres. Donc il y a beaucoup de vins, une extraordinaire diversité qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Enfin,
allez, on réagit sur ce projet. Philippe Rosenplic, vous en pensez quoi?
Italie.
C'est bien, c'est pas bien, ça fait quoi? Ça fait un an et demi, quoi, ça, à peu près que c'était lancé.
Exactement, tout à fait.
Ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Ça permet pour tout à chacun d'aller goûter des vins, alors qu'on se prend toujours un peu la tête pour savoir où, quand, comment. Donc c'est bien d'avoir un outil accessible qui permet, en fonction de ses passions, de ses humeurs, de ses envies, d'aller goûter des vins près de chez soi ou ailleurs.
Mais c'est proactif ou alors il faut aller sur le site pour savoir? C'est vous quand
même. Il y a d'une part, effectivement, on peut aller sur le site quand on le souhaite, hein, soit sur son téléphone, soit directement sur son ordinateur. On peut s'inscrire à notre newsletter et on reçoit dans sa boîte de mail, toutes les semaines, le vendredi midi, tout ce qui va se passer dans la semaine.
Est-ce que vous annoncez, par exemple, les bistrots du sommelier? Les déjeuners ou les dîners bistrots du sommelier? Boulevard Haussmann, oui.
Les événements qui peuvent être organisés dans certains restaurants.
Il est du genre de dégustation. L'objectif est d'avoir 100% des événements du vin sur Vinexplore.
Ah, là,
c'est quand même très difficile.
C'est le rêve.
Bon, et vous, Philippe Arbois, vous en pensez quoi?
Je pense que c'est une bonne idée, surtout si on peut se géolocaliser depuis son smartphone.
Bien sûr.
Finalement, on est en week-end quelque part, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des amis qui sont là et on les sent amateurs de vin. C'est samedi midi, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc l'après-midi ou dimanche? Et en se géolocalisant, on peut trouver à 10 ou 20 km.
Dégustation à son pied.
Effectivement. Et je pense que dans cet esprit-là, ça peut être vraiment sympa.
C'est exactement cela. Et il y a plus de 5000 partenaires professionnels qui publient annonces sur Vinexplore. Ouais, donc, peut-être 2500 vignerons.
Mais c'est gagnant-gagnant, David, parce que voilà, c'est de la pub gratuite aussi que vous leur offrez, Vincent.
Bien sûr. Moi, j'ai une demande à Vincent. Vincent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un créneau pour une sous-section petite du site pour des dégustations professionnelles? Parce que je constate, on membre de la presse, et je pense que Philippe est dans le même cas, on est parfois hyper sollicité pour aller déguster des choses, et parfois les attachés de presse ou les agences de presse qui organisent ces choses-là, ou les interprofessions, choisissent comme par hasard le même jour pour 3 dégustations ou 4 dégustations.
Dans 4 villes différentes.
Donc pour pouvoir étaler le calendrier et rendre ça accessible au plus grand nombre, je pense que ce serait un excellent service qui peut être payant dans ce cas-là pour les attachés de presse.
Bonne idée, David Cobol. 2016, donc là récemment, vous avez lancé Vino Team. Alors qu'est-ce que c'est?
Alors Vino Team, eh bien, ça part du constat tout simple que les gens qui sont autour de cette table sont des gens qui s'y connaissent en vin, mais nous ne formons pas une majorité de la population, très loin de là. La majorité des gens, ils connaissent pas grand-chose et font confiance, en fait, soit pour acheter, soit pour avoir des conseils à leurs proches, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent. Bien, ceux qui s'y connaissent, eux, ils ont des bons plans. Ils achètent directement chez les vignerons, ils achètent chez les cavistes ou en grande surface, peu importe où ils achètent, quoi, en salon des vignerons, bien sûr. Mais c'est eux qui sont les référents. C'est eux qui ont accès à la connaissance. On a tous dans sa famille le tonton Robert qui fait sa commande annuelle au vigneron, son pote Fred qui va acheter le château X à moins 20% à la foire au vin.
Si on a Robert et X, ça commence à être chaud. Là.
Et donc, ces gens-là, eh bien, tout simplement, on va leur demander, bah, écoute, toi tu connais, moi j'ai pas le temps, j'y connais rien, tu veux pas m'en prendre? Alors, ils sont même pas, ils disent, ouais, ok. Puis c'est tellement la galère pour récupérer l'argent quand on fait des commandes groupées pour ses amis, même avec les meilleures volontés, hein, que les gens ils vous disent, ah, il faut, oui, envoie-moi ton riz par mail, oui, je vais le rentrer dans mon espace, et puis ça prend un jour pour valider, puis après j'ai oublié de payer, etc. Que ben finalement on n'arrive à pas le faire. En plus, il faut gérer les bouteilles, faire les tableurs Excel, qu'est-ce qu'il y a moi dans ma cave, etc. Très compliqué. Ben, avec Vinoteam, c'est fini cette complexité. Tout part du principe que en réalité, chaque référent, celui qui s'y connaît, il a toujours intérêt à acheter plus. Toujours. Soit il va obtenir de meilleurs tarifs, c'est-à-dire des réductions, soit s'il achète chez des marchands, il va avoir des points de fidélité, soit, de toute façon, s'il achète à distance, il va avoir une forte réduction de ses frais de port au col. S'il achète sur Internet, c'est un vigneron, enfin, dès qu'il se fait livrer. Donc il a toujours intérêt à acheter plus. Avec Vinotim, s'il en achète pour ses amis, ou ses proches qui l'ont demandé, eh bien, c'est très simple. Il envoie une demande de remboursement à ses amis via Vinotim. Eux, ils reçoivent un mail, ils cliquent sur rembourser, et la somme est immédiatement virée de leur compte vers le sien. Et d'autre part, dans
mais
cette demande de remboursement...
Mais ça, il peut le faire sans vous, ça, c'est l'actificat, on donne son RIB, et puis on fait un virement.
Non, c'est pas pareil, parce que là, c'est vous qui contrôlez. C'est celui qui a payé qui demande le remboursement.
D'accord.
Il n'attend pas qu'on le rembourse. Il dit, voilà, tu me dois X.
Oui, Philippe Aubrac, Philippe Aubrac, oui, Philippe.
Et comment ça marche si j'ai appuyé rembourser par erreur
hein? Comment est-ce que vous pouvez rembourser par erreur? Il faut recevoir un mail.
Là, il faut...
D'accord, bon, Philippe Aubrac.
Non, mais c'est typiquement la question d'un avocat, ça. C'est vrai.
Non, mais en tout cas, c'est une bonne idée d'essayer de gérer. Un élément, enfin plus exactement, de se libérer quelque part de cette dimension-là qui pose toujours un problème par des amis qui finissent toujours être amis à terme.
À la fin, voilà. Bon, vous êtes un garçon honnête, mais il y en a d'autres qui sont pas honnêtes. Hein.
Oui. Je pense que... Non, je suis d'accord avec Vincent que le problème... J'ai déjà essayé de faire ça. Effectivement, collecter des fonds d'un groupe d'amis qui m'avait demandé de commander pour eux, c'est vraiment la galère. Donc, je trouve que c'est un très bon service. Oui.
Alors, mais ça ne s'arrête pas là. Savoir que c'est aussi une cave virtuelle décentralisée. C'est-à-dire qu'automatiquement, je sais les bouteilles que je garde chez moi pour des amis et eux savent qu'effectivement, ils ont X bouteilles à récupérer chez moi.
À récupérer, quoi. Et s'il ne les récupère pas, tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Vincent. Deux sites internet, deux adresses pour comprendre sur VinExplore.
Donc, et puis, pour goûter du vin gratuitement, le plus souvent partout en France, c'est vinexplore.com.
Voilà.
Et pour se rembourser facilement entre amis, profiter des bons plans de ses amis et faire des économies ou se constituer une cave sans se prendre la tête, grâce à ses amis, eh bien, c'est vinotim.fr.
Merci, bon vent, pour au moins ces deux projets de Vino BFM. Retrouve Philippe Rosampic, avocat associé chez Défilis maintenant, pour vos coups de cœur des années 80. C'est bien ça, c'est disco ça. Alors on commence par quoi? Un Gruau Larose 82 et un Pichon Comtesse 1989.
Absolument, j'avais envie pour cette rentrée de me replonger dans les années 80, puisque c'est quand même la première décennie au cours de laquelle j'ai pu acheter du vin. Et donc ça fait du bien de revoir un peu ces gammes, en se disant il y a 30 ans j'aimais ça, il y a 25 ans j'aimais ça, et comment ça a évolué, est-ce qu'on aime toujours. Gruau Larose 82, un vin qui tient tout à fait ses promesses, qui a été dans les meilleurs vins de l'année 82. Un vin qui a été noté, je crois, 98% sur 100 par Parker, mais un vin aujourd'hui qui a encore une maturité devant lui incroyable. Donc, rétrospectivement, ce qui a été dit et redit sur ce vin et cette année-là,
c'est vraiment très beau.
Moi, ça tient correspond encore. Comment ?
Ça tient encore ?
Oui, ça tient encore de nombreuses années, je pense. À la différence peut-être du Pichon 89, qui est peut-être un peu plus mature.
Qui lui a été très coté aussi.
Qui a été très coté aussi. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux grandes années aussi, et 82, c'est une année où la technique, me semble-t-il, bascule un petit peu. C'est une décennie où ça évolue, on a des conditions climatiques qui sont sympas. En 82, 89, la technique bouge. C'est quand même des vins où on a fait aussi du volume, et il reste cette caractéristique, je trouve, des années 80, c'est peut-être un peu plus d'acidité que ce qu'on a eu par la suite.
Le climat n'était pas le même.
À la fois par le climat et puis par la technique. Donc c'est très très intéressant de regoûter ces vins.
Philippe a raison de dire que 82, c'est un grand millésime, mais en plus il y avait du volume. Ouais. Et d'ailleurs, au départ, tout le monde était un peu sceptique sur la qualité et la potentialité du 82. Et finalement, assez rapidement, on s'est aperçu que c'était quand même, on tenait là du bel ouvrage.
David Cobold.
82, c'est vraiment un cas intéressant parce que c'était volume et qualité, comme Philippe vient de le souligner. Et à tel point que les gens ne savaient pas où mettre les raisins. Il y a des vignerons qui ont rempli leur piscine de raisins tellement il manquait de place dans la cuverie. Et c'était aussi l'année où on a commencé à comprendre qu'il fallait contrôler les températures puisqu'il faisait très chaud au moment des vendanges. Les raisins étant très mûrs, ça posait des problèmes à la fermentation. Et du coup, après, on a commencé à investir dans du matériel pour
refroidir,
contrôler.
Et Pichon Comtesse, Philippe, il y a deux Pichons, c'est ça?
Pichon Comtesse et Pichon Baron, effectivement. Alors, à cette époque, on parlait plutôt de Pichon Comtesse.
C'est ça.
Même si aujourd'hui, Pichon Baron a fait vraiment de jolis progrès en qualité. 89, c'est un vin qui a été très séducteur.
Très séducteur.
Le millésime, très, très on voulait. Et Pichon avait sorti un vin qui ne pouvait pas ne pas plaire. Et avec, en même temps, de la matière. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il a évolué plus vite que le Gruau, par exemple, 82, que certains 82, Pichon 82 étant une jolie bouteille aussi, d'ailleurs, mais 89, c'est un millésime peut-être un peu plus, finalement, un peu plus tendre dans la concentration, notamment des tanins, ce qui permet de garder le vin.
Plus longtemps, David ?
J'ai une question pour Philippe Rosempé, qui, lui, est un très amateur de Bourgogne aussi.
Il est avocat fusion-acquisition, mais il adore, à titre personnel, le vin. Voilà,
est-ce que, Philippe, vous avez goûté des choses bien dans la décennie 80 en Bourgogne ?
Alors,
plus difficile, non ?
Moi, dans les années 80, j'ai un peu plus de mal en Bourgogne. Je trouve que la résurrection est plutôt dans les années 90.
Oui. Ah, je voyais un centenaire 85.
Mais par contre,
même si le millésime 85, oui, exactement. Voilà. Même si le millésime 85 a vu naître quand même de très jolies bouteilles.
Exactement. Alors, je me suis intéressé un petit peu à 85. Et c'est une bouteille qui appartenait à mon père, en fait. Et je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps. Parce que c'est une bouteille qui a été brinque-ballée de cave en cave. Qui a bien été conservée. Et c'est un centenaire premier cru d'un monsieur qui s'appelle Hervé Olivier. Mm-hmm. J'ai ouvert ça en me disant, tiens, quelle tête ça a? Et ben, c'était, comme toujours, dans le premier quart d'heure, hein, c'était encore très bien, avec de l'acidité, alors des arômes très tertiaires, évidemment, mais c'était très, très, très agréable.
C'était votre top 3, ça, hein, le troisième. Le deuxième, c'était un Solal du Pape, Bocassel 83.
Qui va faire plaisir à Philippe aussi. Donc, on a une passion commune pour les vins de Châteauneuf. Bocastel aussi, parmi les premiers vins que j'ai achetés, 83, pas la grandissime année, mais un vin extrêmement encore séducteur, agréable. Peut-être pas fluide mais épuré, voilà. Épuré. Disons ça comme ça.
Bocastel, allez-y là chez vous, Philippe.
Non, Bocastel, c'est une des stars de Châteauneuf-du-Pape. C'est dans la décennie 80. Moi, j'ai un très bon souvenir du 81.
Absolument.
Qui paraissait austère au départ. Il paraît même que certains restaurateurs ou cavistes étaient un peu déçus du 81, et donc la famille Perrin a dit mais vous en faites pas, on vous les reprend, on vous les échange contre des 83 ou d'autres choses. Et donc ils ont récupéré des 81 qui sont avérés effectivement super des bouteilles juste grandioses.
Et un Corton 82.
Corton 82, de toujours ces années 80, fait par Capitaine Gagnero, qui faisait des vins à l'ancienne, en tout cas c'est ton papa là. Et c'était il me restait deux bouteilles, j'en ai ouvert une. Ça tient.
Qu'est-ce que ça veut dire à l'ancienne?
Ça veut dire que il y avait peut-être pas les méthodes techniques d'aujourd'hui et qu'il y avait une façon de faire le vin un peu plus rude qu'aujourd'hui.
Donc par exemple,
moins séducteur tout de suite.
C'était non égrappé.
Non égrappé, moins séducteur tout de suite, un peu plus dur. Il faut plus de temps pour que ça se fasse, etc. C'est un vin que j'ai adoré encore maintenant en réalité.
Bon, et on termine votre top 5 avec un petit vin de comptoir, un Hermitage de la Chapelle 85.
Voilà, je suis pas objectif du tout, parce que c'est un vin que j'adore, même dans les petites années. Il se trouve que c'était pas une petite année, c'était une année assez bonne dans la vallée du Rhône Nord, mais c'est la pâte Jaboulet de cette époque-là. Et je me souviens qu'ici on avait goûté encore en 94, qui était une année assez normalement médiocre, après un peu d'ouverture, il y avait cette pâte de cette époque-là. Voilà.
Okay. J'ai eu la chance de le goûter il n'y a pas longtemps, du 85, qui me reste encore un peu dans ma cape de la Chapelle en Hermitage. Et il est magnifique parce qu'il a ce côté, la robe est un peu évoluée, un peu fauve, acajou, etc. Le nez, on est sur le tertiaire, mais c'est un tertiaire élégant parce qu'elle a encore du fruit. On a bien sûr la touche poivrée, épicée, légèrement fumée, le côté sous-bois, la pointe de truffe qui commence à apparaître. C'est vraiment un bonheur. Et en bouche, on a une suavité extraordinaire. Mmh. On a presque l'impression que ça sucre un peu au niveau du palais. Mmh. Et finalement, derrière, on a de l'acidité. Mmh. On a la vibration du terroir granitique qui est là et qui porte sûrement la finale sur l'autel, j'allais dire, de la gloire de cette très belle bouteille.
Ça, c'est quand un vin évolue bien.
Oui,
effectivement, il conserve le fruit. Le tanin devient presque soyeux et presque sucré, comme Philippe l'a dit. Et là, il y a tout. Il y a tout dans le vin. Mais quand on n'est que sur la dureté ou sur l'acidité, ça veut dire que le déclin est là. S'il n'y a plus de fruits, c'est foutu.
Pour terminer, Philippe, une petite balade en Provence ?
Une petite balade en Provence, Château de Baumel, c'est à côté du Luc. C'est un vin de Provence qui vient d'être repris par un entrepreneur avec sa femme, Daniel Caille et Brigitte Caille. Donc, je voulais vous encourager quand même à aller visiter ce lieu qui est fantastique, qui est dans le Massif des Morts, au pied du Massif des Morts. C'est très très beau et aujourd'hui donc il y a un effort technique qui est fait pour améliorer ces vins. Et déjà c'était pas mal. Bon, c'est du rouge et c'est du rosé principalement, mais c'est un vin aussi en devenir pour cette appellation de cette région. C'était à découvrir. En rouge et en rosé. Il y a un peu de blanc, mais pas beaucoup.
Pour terminer, un peu d'autopromo, parce que qu'est-ce qui se passe côté street art? Ça vous concerne, ça aussi, Philippe?
Oui, c'est une... comme j'avais rien à faire dans la journée, je me suis collé une nouvelle passion. Donc, avec des amis, on organise avec Open Graffiti, ça s'appelle Open Graffiti, le prix du street art en France. La dernière, ça a été fait avec la Fondation EDF. Il y a eu 130 000 personnes en France qui ont visité cette expo. Aujourd'hui, COP21 oblige, c'est sur l'environnement. Donc, on a sélectionné 50-60 œuvres à travers les 200-250 qui nous sont parvenues. Une expo démarre en octobre à la manufacture. Elle sera là en octobre, en novembre. Elle tournera en décembre à Bruxelles. Et on finira certainement par une vente aux enchères assez sympa au profit des artistes en janvier. Voilà, donc je vous invite à voir ça. C'est revigorant, c'est jeune, c'est dynamique.
C'est où ?
Des couleurs, à la manufacture à Vincennes.
À Vincennes. Donc à Paris, en tout cas en région parisienne. Merci beaucoup Philippe Rozempic, une ville de BFM. Et toujours en public, et délocalisé chez Nicolas, Paris, place de la Madeleine, avec David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui va tout nous dire sur les vendanges tardives. Alors, les vendanges tardives, c'est quoi ? C'est un monsieur, il s'est pas réveillé le matin, pof, c'est tardif ?
Oui, ça pourrait être ça. C'est peut-être même le début de l'histoire. C'est quelqu'un qui a oublié de cueillir ses raisins quand ils étaient mûrs et les a trouvés en surmaturité. Donc effectivement, comme son nom l'indique, les vendanges tardives, c'est les vendanges après les vendanges dites normales. Après, il faudra définir ce que c'est que des vendanges normales.
Mais oui, bon, ou la normalité, venant d'un anglais, il faut se méfier.
C'est une question d'ordre philosophique dans laquelle nous ne rentrons pas cette semaine. Alors, les conséquences logiques de tout ça, c'est-à-dire de vendanger plus tardivement et qu'il y a une montée de taux de sucre dans le raisin et un abaissement de taux d'acidité. Et du coup, on a tant de sucre dans le mou qu'il est parfois difficile de tout transformer, sauf à faire des vins qui font 20-30 degrés d'alcool, ce qui n'est pas vraiment techniquement ni souhaitable ni tellement possible. On a du sucre résiduel dans le vin. Donc on a un vin qui est plus ou moins doux. Voilà le résultat d'une vendange tardive. Ça, c'est pour la procédure. Alors, en France, si on se limite à la France, on fait ces vins-là partout dans le monde, hein, dans différentes régions du monde. Et en France, il y a trois régions qui sont spécialisées dans les vendanges tardives. Le sud-ouest de la France, Bordeaux, mais aussi Jurançon, Pacherac de Vicqueville, Gaillac, etc. La Loire, avec des appellations qui sont consacrées à des vendanges tardives. Une partie de Vouvray, une partie de Mont-Louis, et puis tout le côté de Layon, Cardochon, Bonzo, etc. Et puis l'Alsace. L'Alsace, qui a la particularité de mettre la mention vendange tardive sur une partie de ses étiquettes, mais il y a deux autres régions, je vais y revenir, qui ont aussi le droit en France. Il s'agit de Gaillac et de Jurançon. Alors, maintenant, c'est un terme européen. En Allemagne, ça s'appelle Spätlese. C'est exactement la même procédure. C'est une mention dite traditionnelle au sens du droit européen et désigne un vin issu de raisin dont la récolte est retardée, volontairement ou non. D'où le type qui a oublié de ramasser ses raisins, donc non volontaire. Mais en général, aujourd'hui, c'est un acte volontaire. Alors, on a des raisins en surmaturité, et comme je l'ai dit au début, ces raisins étant plus mûrs donnent des vins plus doux, plus riches en sucre que des vins secs, d'autant plus qu'on choisit de ne pas transformer tout le sucre. Ils sont également souvent beaucoup plus aromatiques, c'est-à-dire cette intensification, ce rétrécissement de la peau et cette réduction du volume d'eau dans le raisin intensifie les arômes. Donc on a des raisins qui sont, enfin des vins qui sont très aromatiques souvent, d'autant plus que certains des cépages utilisés sont particulièrement aromatiques. Je pense au Gewürztraminer, je pense au Petit Mansing et quelques autres. Alors, il faut distinguer ces vins doux issus de vendanges tardives d'une catégorie un peu à part, une sous-catégorie si vous voulez, qui sont des raisins affectés par les botrytis, qui vont s'appeler en Alsace sélection de grains nobles, ou aucune appellation spécifique, mais qui vont être issus de raisins botrytis. Il n'est pas nécessaire pour faire des vendanges tardives d'avoir du botrytis, c'est même assez rarement le cas. Alors, si on fait le résumé de la législation pays par pays, c'est intéressant parce qu'on voit les différences et les similitudes. En Allemagne, il y a une mention qui est Prädikat Spätlese. Prädikat, c'est les vins de qualité supérieure. Ça, c'est réglementé depuis 1971. Chaptalisation interdite. Quantité de sucre dans le mou, puisqu'on mesure la quantité dans le mou, pas dans le vin, en Allemagne, doit être au minimum 76 à 90 degrés Oechle. Je vais vous le faire en grammes de sucre par litre. Le Oechle, ça équivaut à 10,7 à 13% d'alcool fini.
Monsieur.
OK? Selon le cépage et la région, parce qu'il y a des variations, les régions les plus fraîches, le degré est forcément moindre. En Autriche, qui a suivi l'exemple allemand, mais qui impose un minimum de 95 degrés Oechle, c'est-à-dire 13,5, si vous avez bien suivi le taux de conversion, en degrés d'alcool. Au Luxembourg, on a également une mention vendange tardive.
Oechle aussi, non?
Oui. Ben là, je vais vous le faire directement. Alors ça, c'est 2001, vendange à la main, production limitée au cépage noble. On va voir lesquels tout à l'heure. Degré d'alcool potentiel qui varie selon le cépage, entre 13,7 potentiel pour le Riesling, 15,1 pour le Gewürztraminer, pour le Gewürz Luxerrois, Pinot Blanc et Pinot Gris. Et puis maintenant en France. En France, c'est aussi très réglementé. L'Alsace, on va commencer par eux, parce que là, c'est autorisé sur les étiquettes, cette mention vendange tardée, depuis 1984. Cahier de charge inclut raisin vendangé à la main, pas de chaptalisation. Le moût doit avoir au moins 243 grammes de sucre par litre CC du Gewürz ou du Pinot Gris, soit 14,4 d'alcool potentiel, ou 220 si c'est du Riesling ou un Muscat. Voilà pour l'Alsace. Alors, dans le sud-ouest, on a l'appellation Jurançon, vendange à la main, pas de chaptalisation et au minimum 281 grammes de sucre par litre. Donc, plus fort.
Et dans le Béarn, pour faire référence à la conversation tout à l'heure avec Laurent Nulot. Oui.
Le Jurançon fait partie du Béarn, Monsieur Marty. Et puis maintenant, depuis peu de temps, depuis novembre 2011, l'appellation Gaillac a aussi accédé à cette mention vendange tardive. C'était très disputé par les Alsaciens qui ont essayé de faire un petit jeu de petits bras protectionnistes en disant non, 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 c'est nous qui avons le droit et vous pas. Or, le Conseil d'État a rendu son verdict en 2014 en disant c'est une mention traditionnelle européenne et personne ne peut s'en prévaloir d'avoir la propriété totale de cette mention. Donc en Gaillac, on a aussi des vendanges tardifs et là on monte quand même 281 grammes de sucre comme en Jurançon, soit 17 degrés de volume d'alcool potentiel mais qu'ils n'ont jamais atteint parce qu'on stoppe la fermentation. Comment stoppe-t-on la fermentation pour avoir du sucre? Voilà une question. Eh bien, on a trois techniques possibles. On a le froid, qui va endormir le levure, qu'on va ensuite filtrer. On a le soufre, et on a la filtration. Et parfois, c'est une combinaison entre ces deux de ces techniques-là. Alors, évidemment, cette utilisation du soufre, on va avoir tendance à l'user de moins en moins, mais c'est un fait que les vins sucrés contiennent plus de soufre que d'autres vins, simplement, et c'est une autorisation, simplement, parce qu'il faut être sûr que les levures soient mortes, sinon ça continue à bouillir dans la bouteille, à fermenter. Voilà.
C'est très bien, David Cobol. Philippe Rosampic, vous aimez les vins un peu du Jurançon et les vendanges tardives d'Alsace, par exemple?
J'adore quand ils conservent un peu de fraîcheur, hein, quand ils sont pas trop, quand ils sont pas trop
pâteux,
sucrés. Oui. Et un des vins qui m'a marqué aussi, c'est un Clos Joliette.
Jurançon,
Clos Joliette, donc voilà, qui était.
Et pour ça, le cépage Petit Mansingue est vraiment formidable.
Exactement,
parce qu'il a
formidable dans les années 70 et début des années 80.
Philippe Fabrac, on se demande toujours comment associer, à quoi associer en tout cas un Gewürz par exemple, au niveau de la gastronomie. Une fois qu'on a fait le tour du foie gras trois fois, c'est.
Oui, on peut aussi aller sur certains fromages, certains desserts, des fromages à pâte persillée ou des fromages un petit peu gras. Le vendange tardive de Gewürztraminer, le fromage idéal, c'est un Münster. Hein. Un peu fait, pain grillé, tout ça.
Ça marche très bien.
Sur les desserts à base de fruits exotiques, c'est juste magnifique. Voilà, mais
il faut être deux à manger la même chose.
Voilà, on partage.
Et vous, Vincent Chevrier, vous aimez le Münster?
Alors, j'adore le Münster, mais j'aime aussi beaucoup les vins liquoreux. Et particulièrement ceux de la Loire. Donc, on parlait du Layon. Je pense à des choses absolument remarquables qui sont par exemple, pour le domaine de Juspie,
deux Belges, un couple belge formidable.
Ils sont
super, les Belges.
Que j'adore, d'ailleurs, c'est Edine
Chenin.
Voilà, exactement. Et je trouve, moi, à titre personnel, vraiment que les moelleux issus de Chenin gardent cette tension dont on parlait, avec ce climat tempéré de la Loire, et ça donne des choses absolument magnifiques.
Parce qu'effectivement, c'est une question d'équilibre. Oui. On a beaucoup évoqué la maturité, donc la sucrosité qu'on maîtrise au départ, ou qu'on mesure au départ, et d'une façon extrêmement précise. David a été extrêmement précis. C'est pas la peine de se répéter tout ça. Mais il faut savoir que quand même, une vendange tardive, ça se goûte. Elles n'ont pas toutes le même goût, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes concentrations au sucre. Et deuxièmement, c'est le rapport entre sucre et acidité qui fait cette digestibilité. On l'a cité aussi, on l'a évoqué sur les Chenins ou sur le Petit Mansin.
Ou le Riesling.
C'est ça qui fait évidemment la différence et qui rend le vin accessible.
Merci à tous. Fin de ce numéro 617 d'Indino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 10h et dimanche à 15h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business et surtout, respectez la plus grande des modérations.
Indino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le numéro 617 d'Indino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation, comme d'habitude, modérée et responsable. Le champagne Biberotzik, avec notamment le rosé rare 2007, l'appellation Coteau du Lyonnais, le meilleur des vins des années 80. Et il n'y a pas que la musique, Philippe Olympique, le concept Vinotime. Les vendanges tardives vont enfin comprendre comment ça marche. Et comme chaque week-end, toute actualité mondiale des vins et spiritueux en compagnie donc de Philippe Olympique, Philippe Forbach et Philippe Cobold, David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bon allez, le Philippe Olympique au hasard dans l'agenda du vin, direction Gigondas.
Et oui, direction Gigondas. Pour la cinquième année consécutive, se tiendra un salon dédié aux gourmands. Du 11 au 13 novembre, sur le thème des accords vin et chocolat. Caroline, artisane chocolatière, sera accompagnée de sommelières pour vous conseiller sur ces différents accords qui sauront vous ravir le palais. Ce sera donc l'occasion d'une expérience
juste
sensorielle.
Juste le palais, pas le cerveau, non ?
Pardon ?
Juste le palais ou pas le reste ?
Je vais vous demander à Caroline.
Hein. On va appeler Caroline. Son numéro, c'est 06. Voilà. Ensuite, ne joue pas au gros bateau. Alors, allons-y, là. Qu'est-ce qui se passe ?
Donc, ce sera une expérience sensorielle gustative olfactive, toujours avec Caroline, que vous pouvez partager en famille.
Ouf, ou en famille.
Oui. Ou entre amis. Entrée libre et plus d'informations sur cave-gigondas.fr.
Allez, on part, c'est pas très loin, on va à Nîmes.
On va à Nîmes, c'est pas très loin, pour un festival épicurien haut en couleur pendant 3 jours du 11 au 13 novembre, toujours un peu les mêmes dates. L'AOC Côtière de Nîmes propose des expériences inédites dans cette nouvelle édition de Nîmes Toqué. Le vendredi, expérience insolite, dégustation et accord mets et vins. Le samedi sera l'occasion de rencontrer les vignerons.
Notamment
et
Caroline.
Pour terminer,
avec Caroline.
Il sera là.
Toujours Caroline. Et pour terminer le week-end, en beauté, le dimanche.
Avec Caroline.
Avec Caroline, vous pourrez participer à un brunch.
Et combien coûte Caroline le tarif alors?
Il faut se renseigner sur les renseignements costière-nîmes.org.
Et enfin Bordeaux, très belle ville.
Ensuite, le prochain dîner du Wine and Business Club de Bordeaux, qui aura lieu le 15 novembre au restaurant Le Chapon Fin. Au menu économie, gastronomie et grand cru, plus d'informations sur winebusinessclub.com.
Merci Philippe Rosampic. Philippe Orbach, un commentaire sur le millésime 1964.
Qualité et quantité, finalement. C'est un peu ce qui résume ce millésime qui est plutôt bien né, quelle que soit la région. Une grande bouteille de Bordeaux dont il a fallu quand même choisir ceux qui ont vendangé après ou avant les pluies, hein, parce que ceux qui ont attendu cette année-là, des fois on dit qu'il vaut mieux tard que jamais, mais de temps en temps c'était trop tard. Et là, quelque part, ceux qui ont vendangé avant la pluie ont bien réussi. La référence, c'est la Tour 64, par exemple, qui a tiré
juste. Lascaz est pas mal.
Lascaz est très bon. Les Saint-Julien, de façon générale. Sauterne, vous avez compris qu'il y avait des pluies qui s'étaient abattues à un moment donné. Sauterne n'a pas été gâté, donc c'est vraiment pas un bon millésime.
On oublie, quoi.
En liquoreux, mais par contre pour les blancs ou les rouges de Bordeaux, comme de Bourgogne d'ailleurs, il a plu un peu, mais à partir du 26 septembre les vendanges ont commencé en Bourgogne par exemple, surtout en Côte de Nuit, et il a fait beau jusqu'à la fin des vendanges, ce qui a permis d'avoir une très jolie concentration. Et c'était très beau en Champagne aussi, juste pour terminer, et que l'on peut célébrer encore avec des gens qui sont nés effectivement cette année-là.
Alors, qui par exemple ?
Du côté dame, Juliette Binoche, Zazie, Agnès Jaoui ou encore Béatrice Dalle.
Et chez les garçons ?
Du côté garçons, Nicolas Cage, Albert Dupontel par exemple, sont de ce millésime.
Vous avez Laurent Dulot ou pas en 64 quoi ?
Non seulement on l'a, mais en plus on le garde.
Il est là en vrai, Laurent Dulot, le premier invité, le directeur général du Caviar Sturia. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en biologie moléculaire, doublé de l'INSEAD. Et votre premier job c'était dans les levures, racontez-nous.
C'est ça, dans les levures et dans le vin. J'ai fait une vingtaine d'années dans le vin. J'ai eu la chance de vinifier tout autour de la planète.
Mais les levures, c'était quoi dans les levures à tout début?
Alors, c'était sélectionner des levures pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle les levures sèches actives, qui sont les levures sélectionnées. Il y a eu un gros débat aujourd'hui sur l'utilisation ou non de ce type d'additifs, mais qui permet en fait de contrôler la fermentation. Et je travaillais pour des gens qui étaient spécialisés dans le domaine des Québécois.
Les Québécois. Et en 2002, vous allez créer votre première entreprise dans la formation via Internet, on va dire, également un journal aussi.
C'est ça, un journal qui s'appelle toujours Vinidea.net, qui avait la particularité d'être en 5 langues et de faire de la formation pour les professionnels et techniciens, donc autour de la planète, On avait un petit peu d'avance à l'époque parce que c'était déjà de l'information par internet. On en faisait aussi en face-to-face, mais on faisait aussi de l'information par internet.
Et en 2007, vous êtes parti vivre en Espagne, à Saint-Sébastien. D'où votre temps allé, c'est sympa.
C'est ça. L'Espagne, à ce niveau-là, c'est beaucoup de pluie. Il n'y a pas beaucoup de soleil.
Saint-Sébastien, hein. c'est pas le bon côté. C'est joli, mais c'est plus vieux.
Lui va mucho, comme on s'est dit ça. Hein.
Vous parliez espagnol à l'époque?
Non, pas du tout. J'aime bien les challenges.
Ouais. Et alors, dites-vous, vous avez beaucoup voyagé à cette époque. Hein. Vous étiez à l'international avec notamment comme zone, une grande zone Amérique du Sud, quoi.
C'est ça, exactement, avec la chance d'avoir vinifié en Argentine, d'avoir vinifié un peu au Brésil et puis pas mal au Chili.
Le Chili, un petit mot sur ces vins qu'on trouve là-bas, ils sont comment ?
Il y a de tout.
Oui,
c'est variable. C'est, allez, maintenant que je cherche son nom, c'est un grand professeur de viticulture, Montpellier-Reigne.
Montbal. C'était celui qui avait dit que c'est pas du Merlot, mais du Carménère.
Voilà,
c'est ça.
C'est ça. Et puis qui disait aussi qu'en fait.
Borsico, Jean-Michel.
Borsico. Qui disait que la logique au Chili est absolument incroyable parce que ça peut faire 150 hecto-hectares, mais il y a tellement, enfin, il n'y a pas de pluie, il y a énormément d'eau. Et les 150 hecto-hectares que pisse la vigne là-bas sont équivalents aux 70 hecto-hectares chez nous. Tous les référentiels sont chamboulés. Ceci dit, il y a certaines parties aujourd'hui, notamment sur des moraines glaciaires ou au nord, qui sont très, très, très intéressantes.
Très belle qualité,
Leïda, par exemple, il y a des choses assez intéressantes là-bas.
En se rapprochant notamment de l'océan.
Absolument.
Et c'est surprenant, parce qu'à la partie nord, on n'est pas très loin de l'Atacama, qui est l'endroit le plus sèche du monde. Et là, il y a des vins formidables.
Notamment des pinots, ce qui est assez surprenant, mais vous avez raison, comme on est près de l'influence du passé. Où il y a là un courant qui est très froid, l'océan il est très froid.
Absolument. Il y a des fruits de bière aussi.
Voilà.
Alors en 2012, vous avez rejoint Asturia. Asturia, un petit mot, c'était créé en 90 avec la première production de caviar, hein. C'était en 95.
C'est ça, exactement. Première production de caviar d'aquaculture d'Aquitaine en 95.
Et qui sont les euro actionnaires?
Les euro actionnaires, c'est une famille du nord de la France. Un family office, comme on dit, du nord de la France.
Très bien. Et ils sont heureux, ces actionnaires? Ça gagne de l'argent ou pas?
Un petit peu, on essaye de les rendre heureux quand même. Vous savez, les actionnaires, c'est toujours Paris, ils en veulent toujours un peu plus.
Racontez-nous, donc vous êtes en Gironde, on l'a bien compris. Vous avez combien de fermes au total?
On a 7 fermes, dont une écloserie, puisqu'en fait, on gère de l'œuf à l'œuf. On va faire quelques parallèles, j'imagine, avec le secteur.
De l'œuf à l'œuf?
Oui, c'est comme si on avait notre propre pépinière, en fait.
D'accord.
Voilà, il y a encore quelques vignobles qui le font. Moi-même, d'ailleurs, j'ambitionne d'en faire un petit peu,
de l'œuf ou des pépinières?
De la pépinière. De l'œuf à l'œuf, c'est très important de maîtriser la génétique, que ce soit sur du végétal ou de l'animal.
Alors, vous êtes également présent en Chine?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Quand les actionnaires actuels ont acheté aux fondateurs passés, c'était dans la corbeille de mariée, donc on y est.
Est comment le caviar chinois?
On est arrivé, c'est la troisième production, on est arrivé à faire le meilleur sibérien, ce qui est quand même un petit peu bizarre pour un chinois, le meilleur sibérien chinois. On est comme ça chez Sturian, on aime bien les trucs un peu bizarres.
Pour comprendre, comment est organisée la production de caviar en Europe? On en produit beaucoup, Laurent?
Alors l'Europe fait aujourd'hui... détient 70% de la production mondiale de caviar. La production mondiale de caviar l'année dernière, c'était 300 tonnes. Donc vous voulez faire le calcul, 3 x 7, 21. La France produit une trentaine de tonnes, a produit officiellement, enfin les chiffres sont pas encore tombés, mais une trentaine de tonnes l'année dernière. C'est un secteur en plein boom. Alors c'est un secteur de niche, évidemment, mais il y a tellement peu de secteurs, ça serait du compo de chacun.
Bien sûr.
Dans notre pays, dans notre hexagone, où on a un vrai leadership et où on progresse de plus de 10% par an, c'est qu'il faut le signaler. Donc, et nous, on produit la moitié de ça.
Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles marques qui fleurissent, hein. C'est la mode le caviar, quoi. Il n'y a pas trop de marques, on s'y perd un peu, non?
Alors il y a effectivement, vous êtes très observateur mon cher, beaucoup de marques qui arrivent, ou des marques donc de négociants, on est place de la Madène, les négociants ici, il y en a quelques-uns, ou des marques de producteurs. Donc c'est un petit peu aujourd'hui la course à la poule aux œufs d'or. Donc les gens se précipitent dans ce secteur d'activité. C'est un peu comme dans le vin dans les années 80, quoi. Sans trop savoir, et encore une fois, quand tu regardes comment est organisé un bilan ou un compte de résultat, la gestion des stocks, etc., je vais pas rentrer dans les détails, ça va ennuyer tout le monde, mais les deux métiers, là encore, sont très, 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 très similaires, les cycles sont longs, etc. Donc, bref, il faut beaucoup, comme disait Buchenstein une fois, qui était à l'époque, quand il m'a rencontré dans les années 80, le patron de l'American Society of Enology, il m'a dit, vous savez, Laurent, pour faire une petite fortune, une grosse fortune, une petite fortune dans le vin, il faut commencer avec une grosse. Voilà. Et bien dans le caviar, c'est pareil.
Donc vous avez aujourd'hui 52 salariés, un chiffre d'affaires qui va tutoyer les 9 millions d'euros. La distribution pour la partie française, en tout cas, vous êtes organisé comment? On fait de la vente directe, Laurent? On vous revendez?
Alors on est très fort, nous, notre première voie commerciale, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la RHF. On y est ici, restauration hors foyer. Donc beaucoup les restaurants étoilés, beaucoup les hôtels et les palaces, 45% à l'export, 55% en France. Et on a une petite particularité, là encore une fois, c'est quelque chose qu'on a amené du vin. On fait, alors ça c'est un terme qui va vous paraître un peu barbare, de l'analyse sensorielle descriptive quantitative.
Wow, ça a l'air savant. On dirait un sommelier qui parle au restaurant.
J'en faisais en fait quand j'étais dans Vinidea.
C'est pas tous comme ça.
J'en faisais quand j'étais chez Vinidea et on a affiné la technique qui existait déjà chez Sturia, qui nous permet en fait de séparer les premiers crus et les seconds crus. Et les seconds crus vont, un peu comme les seconds crus de vin, beaucoup en GMS, et les premiers crus vont en réseau de distribution dit spécialisé.
Alors tous ces parallèles, c'est vrai qu'il y en a beaucoup entre le vin et le caviar. On va les énorme. Lancer quelques-uns en tout cas.
Énorme. En fait, ça c'est comme quand je suis allé en Espagne, je ne parlais pas espagnol. Quand je suis rentré dans le caviar, j'y connaissais rien. Mais les parallèles sont complètement fous. Déjà le cycle. Voilà, le cycle du poisson, c'est 7 ans. À part que quand vous faites votre vendange, vous arrachez la vigne, parce que pour l'instant il y a des techniques qui permettraient de collecter les œufs en gardant le poisson vivant, mais qui affectent la qualité du caviar. Donc pour l'instant c'est pas au point. Donc ça c'est le premier cycle. Ensuite on a nous aussi une maturation, comme on a la maturation pour certains vins en barrique. On a notre propre barrique, les boîtes d'origine d'un kilo sont des boîtes dans lesquelles on fait maturer le caviar avec un système de micro-aération, au même titre que la permation des pores de la barrique.
Combien de temps ça dure, cette phase?
Cette phase, ça va durer, en fait, vous allez le faire entre 3 et 8 mois, en fonction de ce que l'on cherche comme puissance dans le caviar. Plus le caviar est affiné, plus il est puissant. Voilà.
Et au niveau association entre un caviar ou différents types de caviar et le vin, ou en tout cas le breuvage alcoolisé, c'est pas facile de rendre l'eau.
C'est assez facile, en fait, sans vouloir vous contredire, mon cher, mais... il faut éviter, il y a une association qu'il faut éviter. Alors, c'est le bois, notamment les élagitanins, les élagitanins qui peuvent révéler le sucre, le sel du caviar, et le sel lui-même va révéler l'amertume des élagitanins. Donc ça, c'est un mariage qui marche pas très 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 bien. Mais après, on peut faire pas mal de choses, c'est assez intéressant. D'ailleurs, on a fait un petit bouquin que je me permettrai de vous donner.
Deux, trois conseils peut-être avant de passer la parole à Philippe, vous en
plus. Alors, ce qui marche le mieux, c'est champagne. Sans aucun
doute. On va parler tout à l'heure. Vodka quand même, non?
Alors, la vodka, c'est parce que quand les Russes avaient l'habitude d'avoir des caviars très 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 affinés, puissants. Donc, la vodka jouait le rôle de nettoyer, enfin, c'était pour nettoyer la bouche. Après, donc, évidemment, ou les grands blancs. Moi, j'adore les Chablis. Ça marche très bien,
il y a un peu d'acidité quand même, non?
Oui.
Un peu de puissance.
Condrieux, ça marche très très bien avec les condrieux.
Les graves.
Alors là aussi, mais en évitant le piège du bois, parce que parfois,
on les prend avec un peu d'âge, effectivement, le bois s'est fondu.
Effectivement.
Et le côté noiseté va
partir. Le bois en pique,
tout à fait.
Moi, je suis assez d'accord avec les champagnes, j'aime bien.
Est-ce que vous aimez le caviar déjà, Philippe?
J'aime bien, j'en mange pas tous les jours, mais j'aime bien.
Bien sûr, ça se consomme.
Surtout, ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette alliance entre le caviar et le vin. Et je trouve que le champagne, qui est assez vineux, comme un Bollinger, comme un Célos, ou des choses comme ça, se marie assez bien.
Vous avez pas cité la bonne marque, mais on va parler tout à l'heure.
RD92 avec un caviar relativement.
Voilà, RD96.
On va mettre des champagnes, quels qu'ils soient, plutôt vineux avec des caviars jeunes. Parce que le caviar a besoin d'être protégé. Alors qu'on va mettre des champagnes très, très, très tendues avec une bonne acidité et une bonne matrice, plutôt avec des caviars âgés.
Laurent Dulot, alors pour terminer, côté personnel, votre famille, vous avez The Grand Cru du Béarn.
The One.
Ouais, c'est la Romanée Conti, vous produisez quand même 1000 bouteilles, quoi.
Voilà.
Combien de bouteilles la Romanée Conti, Philippe? Moins de 2000?
Non, 6000.
6000, entre 5 et 7000.
L'objectif, c'est 6000, effectivement, c'est un vin de garage. Et par contre, c'est pas un vin du Béarn, parce que comme vous me connaissez un petit peu maintenant, j'aime pas trop faire les choses qui sont dans les règles, donc c'est un vin de France, parce que c'est un 100% Cabernet Sauvignon.
Mais il est produit où?
Dans le Béarn.
Ah, dans le Béarn, quand même. Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est votre coquetterie? C'est le clin d'œil familial? C'est papa, c'est maman, c'est tout
ça,
le monde?
C'est papa, d'ailleurs, ça s'appelle le vin de mon père. C'est papa, mon père et moi, c'est notre projet commun, avec tout ce que ça peut avoir d'importance, puisqu'on a fait là aussi tout, hein, on a fait tous les trous, on a planté tous les cèpes, enfin on a tout fait nous-mêmes.
Et le vin est très très mauvais ou très très bon?
Bah, moi, je suis surpris. Bah, tiens, vous allez bientôt aller le Wine Business Club là, dans un bon restaurant de Bordeaux où il est servi. C'est plutôt un vin de France plutôt qu'on retrouve dans les restaurants étoilés. Cabernet Sauvignon 100%.
Et vous livrez plusieurs restaurants étoilés.
Que des restaurants étoilés.
Sur 1000 bouteilles à date.
C'est ça. Moi, je regarde un peu pour les cours.
Oh, c'est génial d'être au bol, non?
Oui, moi j'ai hâte de le goûter. Hein,
Laurent. Oui, avec plaisir.
Ouais. Et avec modération. Laurent Dulot, toujours. Vous connaissez le champagne pipératique ou pas?
Oui, bon, j'aime beaucoup.
Très bien. Et bien justement, on en parle avec son directeur exécutif, Benoît Collard. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors un mot sur votre parcours avant d'arriver chez Etsy, vous avez fait plein de choses. Hein.
Oui, j'ai commencé dans l'eau minérale.
Ça a commencé difficilement, oui. Quand même.
Un an avant de me rendre compte que lorsqu'il y a un peu d'alcool, toujours consommé avec modération, avec les bulles, c'était beaucoup plus intéressant. Donc 20 ans dans le secteur à la fois du champagne, des vins et des spiritueux, en France et à l'étranger, sur des domaines et des régions diverses et variées, allant de la Champagne jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Argentine ou la Californie.
Et vous avez rejoint donc cette belle maison pipératique il y a quasiment un an.
Il y a un an.
Un an, joyeux anniversaire en tout cas. Oui. Alors un petit mot sur l'historique de Piper.
L'histoire de Piper, c'est une des plus anciennes de Champagne, maison encore familiale, une des rares maisons familiales fondées au XVIIIe siècle, fondée en 1785, qui a été acquise par Christopher Descourt en 2011. Une des maisons les plus emblématiques du Champagne à travers le monde, puisque un des leaders du champagne en dehors de France. Donc on le retrouve avec plus de 80% de nos ventes en dehors du marché français. Et une maison qui est la maison de champagne la plus récompensée du siècle.
Depuis le
début des années 2000, Régis Camus, qui est notre chef de cave depuis 22 ans.
Qu'on salue.
Et qu'on honore. Particulièrement reconnu pour la qualité de ses vins et son génie.
Particulièrement récompensé par les Anglais, je crois.
Exactement, Benoît. Exactement. Mmh. Les Anglais, je pense, apprécient à la fois un certain parti pris, une certaine vision, et puis une authenticité et un instinct dans certains de ses choix.
Mais c'est vrai que Piper Etsy était un peu la belle endormie. Hein. Et là, on a l'impression que depuis 2-3 ans, c'est totalement réveillé. Les vins sont très bons, voilà. Et les journalistes se reconnaissent. Donc on est au début de la pyramide, en haut de la pyramide. Il faut que ça redescende maintenant.
Exactement. Une belle endormie, en tout cas, qui ose probablement s'affirmer un petit peu plus et montrer une certaine fierté sur à la fois ses vins et sa personnalité. À travers le monde et dans tous les établissements, restauration,
c'est ça, cave, etc. Dans la gamme Piper, Benoît, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on a?
Alors, dans la gamme Piper, nous avons à la fois Piper Essig Brut, nous avons un rosé non millésimé qui s'appelle Rosé Sauvage, une cuvée plus dosée, la cuvée Sublime, une cuvée qui est un extra brut qui est essentiel, qui n'est présent qu'en caviste.
Extra brut, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors c'est un champagne qui a un dosage réduit par rapport à un champagne brut, donc il va avoir une tension, une complexité un petit peu plus importante.
Et qui... Le caviar.
Exactement. On est à moins de 5 grammes.
Nous sommes à moins. Alors, la législation est à moins de 6.
Ouais.
Et donc, souvent, effectivement, nous sommes plutôt aux alentours de 5 grammes. Ouais.
De 5. Et votre actualité, donc, c'est le rare rosé millésime 2007. Alors, les cépages, tiens, qu'est-ce qu'on a comme cépage, par exemple, pour le rare rosé 2007?
Alors, rare rosé 2007, c'est un assemblage de pinot noir et de chardonnay. Même si nous sommes sur un champagne rosé, il y a une majorité de chardonnay, 56% de chardonnay et 44% de pinot noir.
Et donc l'ambition 2007, c'est une belle année, Benoît?
Alors 2007 est ce qu'on appelle une année typiquement rare, puisque la cuvée rare est une cuvée qui, dans les cuvées de prestige, fait un petit peu exception, dans le sens où nous avons élaboré très très peu de millésimes depuis sa création. Puisque première cuvée de prestige dans la maison en 1885, et depuis 1976, où on a vu arriver la première cuvée rare millésimée, il n'y a eu que 8 millésimes. Donc c'est peu. Ce sont des vins assez s'expriment assez rares et qui se veulent être l'expression d'années extraordinaires, sortant de l'ordinaire, années atypiques, où il faut probablement chercher parmi l'ensemble des 320 crus de la Champagne ceux qui vont révéler des caractéristiques assez extraordinaires.
Justement.
Alors j'ai une question qui n'est pas une question piège, donc ne me prenez pas. Benoît, mais qui est une question pour clarifier pour l'auditoire d'Invino. Vous avez dans votre escarcelle deux marques qui portent le nom Heidsieck,
oui.
Charles et Piper. Alors, comment est-ce que vous ferez la distinguo entre les deux sur le plan des vins et sur le plan du marketing, du marché?
Alors, ce sont deux maisons complètement séparées. Nous avons eu la chance d'être regroupés au sein, enfin, de faire un regroupement familial finalement 200 ans plus tard de ces deux maisons, puisque la maison Charles Heidsieck a été fondée par le petit-neveu de Florent Louis Heidsieck, le fondateur de Piper Heidsieck, qui a souhaité voler de ses propres ailes. Nous avons typiquement deux styles de vin complètement différents. Charles Heidsieck qui est beaucoup plus sur un style plus vineux,
plus riche,
avec une proportion de vin de réserve qui en fait quasiment un multimillésime à vieillissement très prolongé dans la famille des grandes marques du type Krug, alors que Piper Heidsieck s'exprime beaucoup sur une certaine fraîcheur, c'est l'expression du champagne notamment par le Pinot Noir. Puisque le style de la maison est très très porté sur le Pinot Noir, et avec donc deux présences également dans le marché différentes. Charles Heidsieck est présent dans la restauration traditionnelle en cave. Piper Heidsieck est présent à la fois dans ces univers, mais également dans un univers un peu plus festif, et également en grande distribution, comme toutes les grandes marques de champagne qui font finalement que pour le consommateur, souvent, le champagne est le produit de luxe présent également en grande distribution.
Benoît, pour terminer, le millésime 2016, la vendange, là, tout est
alors,
terminé, ça s'annonce comment?
Un millésime 2016 qui nous a fait avoir plusieurs sueurs froides, puisque elle a commencé... Par un hiver assez doux, donc on a démarré assez vite, puis ralentissement assez fort, début mai, avant les saints de glace, gelées qui ont été particulièrement meurtrières dans la région de l'Aube, qui est une région qui est très importante pour nous, et d'ailleurs, Rare Rosé 2007 n'existerait pas si Régis Camus n'était pas tombé amoureux d'une cuve de vin rouge issue des Rissés. Qui pour lui était exactement ce qu'il recherchait comme base.
Merci beaucoup Benoît Collard et bon vent, notamment pour ce Piper Rare Rosé millésime 2007. Vous connaissez Benoît les coteaux du Lyonnais ou pas?
Un petit peu. Et oui, c'est une région.
Vous allez parfaire votre culture grâce à Philippe Forbach, notre meilleur sommelier du monde, qui nous en parle. C'est l'appellation du jour.
C'est l'appellation du jour. Alors c'est vrai que toutes les grandes villes, les grandes métropoles et les grandes ce monde rêvent de leur vigne. Alors à Paris, on a Montmartre, Suresnes. Je sais que vous allez m'apostropher là-dessus.
Suresnes, le grand cru.
Voilà. N'oubliez pas ici les Moulineaux.
Ici les Moulineaux. Il y a eu beaucoup.
Il y a l'Officine aussi.
Beaucoup de vins à une époque dans la région parisienne et Paris donc avait son vin. J'ai d'ailleurs participé il y a quelques jours au vendange de Montmartre.
Et vous allez être fier.
Et j'ai goûté le raisin. On m'a dit, surtout, n'en prenez pas beaucoup, ça va réduire considérablement la récolte. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, 2000 pieds. Mais finalement, il était plutôt bon, le raisin, donc on va attendre pour juger le vin. Et j'avais eu l'occasion de goûter le 2015 de Montmartre, qui était, pour une fois... intéressant à boire.
Vous voulez qu'on vous croise, vous êtes parfait, puis de temps en temps, vous égarez quand on parle des vins parisiens.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas toujours évident, surtout dans ces endroits-là. Alors, il y a du vin au-dessus de Nice, le Bélé, on pourrait appeler ça les coteaux niçois, je veux dire. Il y a des vins autour de Bordeaux, pareil.
Aubryon,
Aubryon est un vin très urbain. Et puis, donc, Lyon ne déroge pas à la règle. Et même si l'image lyonnaise est plutôt partie sur la table, mais sur la table, on y met à manger, mais on y met aussi à boire. Et le fameux pot lyonnais qu'on attribue souvent, finalement, au Beaujolais ou au Côte-du-Rhône, est sûrement né de ces coteaux du Lyonnais, qui démarrent au sud de la région beaujolaise, donc pas loin de Villefranche, par là, dans la partie nord de Lyon, et qui finit au sud, pas loin de la région des Côtes-du-Rhône, puisqu'on est presque à la limite du fameux Côte-Rôtie.
Donc il fait tout le tour de Lyon.
Il fait tout le tour de la ceinture lyonnaise.
Comme le TGV.
Il fait un contournement de la région lyonnaise, exactement, par sa partie ouest. Donc il y a deux terroirs, la partie nord et la partie sud, qui donnent finalement pas tout à fait le même type de vin. Alors on produit du vin dans cette région depuis longtemps. Lyon est une ville ancienne, et dès 45 avant Jésus-Christ, et pas hier, il y avait déjà des traces de vignobles organisées dans cette région, dans cette région-là. Le Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle, a vu la production se développer d'une façon assez considérable, et puis patatrac, le phylloxéra qu'on évoque souvent, a remis un peu les choses à plat, et le vignoble s'est redynamisé seulement à partir des années 30, quand les appellations d'origine contrôlées ont été créées. Là, on a réorganisé un peu le vignoble qui n'avait pas complètement disparu, mais qui renaît un petit peu de ses cendres. Pendant la période de la guerre, vous savez que beaucoup ont demandé les AOC dans cette période-là, ou juste après, parce que pendant la période de l'occupation, les vins qui n'étaient pas AOC étaient réquisitionnés par l'occupant, et ceux qui étaient AOC ne l'étaient pas. C'est pour ça qu'on a vu apparaître un certain nombre d'appellations. L'une des plus célèbres, c'est Bandol, par exemple. Ouais. En 42, ils ont vite fait pour faire. Monsieur Perrault était à la manette. Ils ont dit, on va faire du voilà. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la région. Ils l'ont eu bien plus tard. Mais ils ont engagé déjà cette démarche.
Oui, c'est assez fou le nombre d'appellations créées en 42, 43.
Ouais. C'est fou. Ouais. C'était juste pour des raisons, effectivement, de guerrières, quasiment. Alors, l'appellation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est à peu près 400 hectares de vignes. Réparti, je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de la partie ouest de Lyon. Il y a 59 communes qui peuvent avoir droit à cette appellation. On y produit à la fois des blancs et des rouges. Les blancs sont élaborés à partir de Chardonnay, qui est le grand cépage d'influence de cette région quand même. Mais on y trouve aussi de la Ligotée, qui est un autre cépage qui a une connotation très bordelaise, très bourguignonne, pardon, mais qui donne des bons résultats, d'autant plus que plus au sud, finalement, il est un peu plus mûr. Il a de la maturité tout en gardant de la fraîcheur.
On a moins besoin de mettre du cassis dedans pour le rendre buvable.
On est obligé de le mettre en cocktail, exactement. Son équilibre lui permet d'être dégusté en l'état. Il est quand même assez minoritaire dans l'appellation Côte du Lion en volume, mais il est intéressant. Le principal vin produit, c'est du rouge, et il est élaboré à partir du Gamay, le fameux Gamay âge blanc, qui donne dans le Beaujolais aussi pas loin de jeux de résultats, le côté fruité, le côté désaltérant, les fameux bouchons lyonnais auxquels j'ai fait référence tout à l'heure se portent bien. Toute la gastronomie de la région qui est faite de fromage, de charcuterie, mais également agrémentée de fruits, de miel, etc., permet de mettre en valeur ces vins tout à fait originaux.
Philippe, juste une question. Alors pourquoi on appelle ça bouchon? C'est parce qu'il y avait beaucoup de ça?
Oui, on est débouché pas mal de...
Non, mais c'est pas ça, sûrement.
Il y a des chances que ça vienne de là. Hein.
Ah oui?
Les bouchons, vous voyez. Ouais. Ou alors, on restait bloqués. Finalement, quand on arrivait là-bas, on était vraiment
ils
dans
sont mignons tous les deux. Alors,
on plus s'en sortir. Voilà. Et surtout, on y prenait beaucoup de plaisir. On y continue à le faire. Alors, quelques vignerons
bien sûr,
intéressants.
Émérite.
Exactement. La famille Rostin. Alors, ça s'écrit comme le Rostin de c'est sûrement de la famille d'ailleurs, de Cotrotti également.
L'écrivain.
Il est à Savigny.
Non, pas l'écrivain,
pas Edmond. Exactement. Michel, Marinette et Patrice, il faut tous les citer parce qu'ils vont m'en vouloir. Sinon, Ruiton, ils sont installés du côté de
Tartu.
On va le retrouver quelque part. Elle viendra seulement pour
elle se cache pour l'instant. Ouais.
Et donc à Dardilly, donc vraiment à proximité immédiate de la ville de Lyon. Ça c'est pour la partie nord et plus au sud, en descendant vers les vallées du Rhône, on a du côté de Saint-Andéol-le-Château le domaine des Barotières, ou encore à Saint-Romain-en-Gier le domaine Pierre Charmy. Ce sont des vins qui sont accessibles
au niveau du prix
et en prix.
Comment ça
parce
coûte
qu'à moins de 10 euros, on peut s'offrir une jolie bouteille. 7-8 euros pour les premiers vins. Quelques cuvées un peu particulières, comme toujours, qui peuvent dépasser une quinzaine d'euros. Mais c'est vraiment très intéressant. Ça fait des gamets accessibles, fruités à souhait. Ça change, entre guillemets, pas trop du Beaujolais ou des autres gamets du coin, mais il y a une originalité dans l'appellation. Et je veux juste signaler, avant de terminer, que la fameuse fête du Beaujolais, qui va être dans quelques semaines, puisque ça sera le 17 novembre cette année, le fameux Beaujolais nouveau, finalement, les gens du Beaujolais, et à mon avis, ils ont raison, vont essayer de transformer cette fête du Beaujolais nouveau en fête du gamet, tout simplement. Ouais. Et profiter de mettre en valeur ce cépage.
C'est une bonne idée.
On a fait au mois de septembre le Grenache des... Et comme il y a d'autres cépages que l'on met en valeur aujourd'hui, donc de faire, et non pas simplement de faire goûter le vin de l'année, mais de dire le Gamay, c'est aussi un cépage qui donne des vins de garde. Ouais. Donc profitons ce jour-là pour présenter d'abord les Gamay de Touraine, de Gaillac ou d'ailleurs, mais aussi de revisiter, de donner la valeur également à des Gamay un peu âgés qui sont très intéressants à goûter.
Merci beaucoup Philippe Arbrac, qui dit le BFM marque une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Pourquoi? Pour le Ville Quiz.